Et salut, c'est Fred, Indécent Podcast, et bienvenue dans cet petit entretien, cette petite interview, comme vous le voudrez, qui va suivre. Sans plus attendre, je fais venir mon comparse de toujours, notre cher Antoine, que voici. Salut Antoine, comment
Salutations.
vas-tu?
Ben ça va très bien, très très bien en ce moment, là où on tourne, c'est le week-end, je suis heureux, la vie est
Oui.
belle, il fait beau, il fait très très beau.
Oui, alors moi je parlerai pas du temps ici, parce que sinon on a pour 2 heures de récrimination contre le temps en Moselle, qui est toujours tout pourri, mais peu importe. Donc je pense que vous le voyez au petit fond d'écran qui est derrière nous, on va accueillir sans plus attendre notre invité, à savoir Monsieur François Barranger. Bonsoir, François.
Hello,
Salut
Fred,
Salutations.
salut Antoine.
Mais alors déjà, premièrement, avant de commencer quoi que ce soit, on te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation d'enregistrer de cette petite discussion sur ton parcours, ton travail d'illustrateur, ton travail d'écrivain aussi, et voilà, un petit peu de tout ça. Donc je te
Pas de souci.
propose que, sans plus attendre, on peut commencer déjà avec la toute première question, j'allais dire une des plus classiques, hein, c'est celle de savoir qui tu es et surtout ton parcours, parce que je me suis permis d'aller voir un petit peu ta bio, je te connaissais en tant qu'illustrateur et auteur, mais alors, il y avait des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc je te laisse un petit peu parler de tout ça si tu veux bien, dans un premier temps.
Oh, bon, en général, je fais assez court parce que sinon, on en a pour longtemps vu que j'ai eu pas mal de bifurcations dans ma carrière, donc ça pourrait prendre longtemps si je parlais de tout. En gros, moi j'ai une formation classique de dessinateur, illustrateur, avant l'arrivée du numérique, donc c'était traditionnel à l'époque, puisque j'ai fait mes études d'art en gros au début des années 90. Et après, j'ai fait pas mal de métiers divers et variés qui tournaient toujours autour de l'image, bien sûr. J'ai essayé aussi quelques petites pistes un peu atypiques comme la réalisation. Donc, j'ai fait quelques courts-métrages de films d'animation. Ensuite, après avoir fait pas mal de temps dans le jeu vidéo, un peu dans le multimédia aussi. J'ai fini par me stabiliser pour de bon dans l'illustration pure et dure en devenant un concept artiste. Donc ça, c'était au début des années 2000, pour faire simple, et plutôt, ouais, plutôt 2005 même. Et donc en gros, j'ai fait ça une quinzaine d'années, et vraiment à fond, là pour le coup, j'ai fait que ça. Et petit à petit, j'ai embrayé sur comme j'avais très envie de raconter des histoires. J'ai embrayé sur l'écriture de romans, donc qui est mon premier roman, Dominium Mundi, un roman de science-fiction, est sorti il y a 10 ans maintenant, presque pile. C'était en octobre 2013, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, mais je crois que c'est ça. Et 5 ans plus tard, non, 4 ans plus tard, j'ai réalisé un vieux rêve qui me tenait à cœur, c'est réaliser des versions illustrées des histoires de Lovecraft. Et donc j'ai commencé en publiant en 2017 l'Appel de Cthulhu illustré. Et donc maintenant je fais plus que ça. D'un côté produire des livres illustrés sur Lovecraft et de l'autre côté produire des romans qui n'ont rien à voir avec Lovecraft. Ou peu à
Oui.
voir, parfois un petit peu.
Ouais, un petit peu pour effectivement pour quelques-uns, on en reparlera. Du coup, je permets de rebondir sur une petite question, même si voilà, c'est un petit préambule. C'est comment tu as vécu justement ce passage au digital dans les écoles d'art? Première petite question donc.
Eh bien, en fait, moi, j'ai pas le sentiment d'être passé au digital parce que j'ai toujours adoré les ordinateurs depuis que j'étais gamin. Je sais pas pourquoi ça m'attirait énormément, ça me fascinait même. Même à une époque où c'était encore des ordinateurs très rudimentaires, hein, parce que le premier que j'ai eu, moi, c'était un Amstrad CPC
Bienvenue.
664, donc
Bienvenue au club.
vraiment un vieux machin. Et moi, ça m'attirait énormément, quoi. Donc, quand j'étais à l'école d'art, à l'époque, j'avais un Amiga 500.
C'est bien,
Donc sur l'Amiga
bravo.
500, c'était déjà graphiquement très performant, mais évidemment, on ne pouvait pas vraiment dessiner dessus. On pouvait faire du pixel art à la souris et puis ça s'arrête là, quoi. Mais
4096 couleurs quand même.
ah oui, non, c'est même plus que ça, non?
Oh, le mode HAL,
Peut-être
c'était
80.
4096, ouais. Avec,
Ouais.
c'était OCP, je crois, hein, le logiciel, ou je sais plus comment
Voilà.
ça s'appelait le logiciel. Bon, bref,
Ah non, moi
j'ai
j'avais. Non,
un peu travaillé
c'était
aussi.
Deluxe Paint, je crois. C'était
C'est
déjà
Deluxe Paint
Deluxe
sur
Paint.
Amiga et OCP,
Ouais,
c'était Amstrad.
ouais.
C'est pour ça.
Et j'ai même fait mes premières armes en 3D, en image de synthèse, sur Amiga aussi. Avec, je suis pas complètement sûr du nom, mais je crois que c'était Sculpt 4D, un truc comme ça.
Ouais, ça
Et
parle.
Et vraiment, c'était incroyable à l'époque, hein, c'était la préhistoire, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait 48 heures pour rendre une image de 100 pixels par 50 pixels, quoi. Mais c'était extraordinaire quand même pour l'époque. Et donc moi, j'étais déjà à fond là-dedans, moi j'étais prêt, j'attendais que ça, quoi. Même si j'adore le tradi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est le tradi, j'étais quand même prêt pour basculer en numérique. Donc à l'école, proprement parler, pour répondre à ta question, quand j'y étais, cette personne comprenait ce que c'était en fait, quoi. C'est à part, on était quelques-uns à se passionner pour ça, mais les autres, les élèves déjà, ça ne les intéressait pas beaucoup, et les profs, je ne te parle même pas, quoi. Ça leur passait complètement au-dessus de la tête. Et il y avait quelques Mac plus, et puis c'est tout, quoi, avec le soft de l'époque, je ne sais plus ce que c'était, l'équivalent de Paint. Donc c'était très rudimentaire, et donc pour moi, c'était séparé. J'adorais faire des images sur ordinateur avec les outils de l'époque, mais ça ne me venait pas l'idée de dessiner sur ordinateur. Et puis, alors j'aurais du mal à dire quand c'était exactement, mais au milieu des années 90, j'ai vu les premières Wacom. Et après un petit temps où les premières versions n'étaient pas très convaincantes, j'ai fini quand même par basculer dessus. J'ai mis un petit moment à m'habituer correctement, parce qu'il y avait quand même une différence fondamentale, c'est que quand tu dessines, tu regardes là où tu dessines. Tu regardes là où il y a ta main.
Tandis que là, pas du
Et
tout. Et
quand
puis en plus, il y a une
tu...
latence.
Non, la latence, non, quand même, sur les Wacom, il faut l'avoir.
Ouais,
Hein.
ça allait.
Mais par
D'accord.
contre, quand tu dessines en tradi, tu regardes là où tu dessines. Et quand tu dessines sur une tablette, tu as la main qui est en bas et toi, tu regardes sur ton écran. Et donc ça, c'est au début, c'est assez déstabilisant. Puis aussi, le fait de ne pas pouvoir déplacer ta... Quand tu dessines, tu déplaces tout le temps ta feuille. Toi, tu la tournes. Pour pas avoir à tourner le bras, c'est une espèce de... Tu réfléchis même pas quand tu le fais. Avec une Wacom, tu peux pas le faire. Et donc pendant un certain temps, je pensais que j'y arriverais pas, quoi. Et puis finalement, je me suis fait. Et maintenant, c'est le contraire. Maintenant, j'arrive plus à repasser dans l'autre sens. C'est-à-dire dessiner en tradi, pour moi, c'est contraignant. Ça me pose problème. Maintenant, voir ma main devant le dessin, qui cache une partie du dessin, ça m'agace, ça me gêne. J'ai tellement pris le pli d'être en numérique. Que c'est, je peux pas revenir en arrière, quoi. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. En fait, il n'y a pas eu une rupture d'un coup.
D'accord. Bon, ju juste comme ça pour anecdote rapide, parce que j'aime bien la ressortir régulièrement, celle-là, je suis un peu radoteur par moment. C'est pour ceux qui ont connu la série Babylon 5, un peu ma série préférée, il faut savoir que tous les effets spéciaux 3D ont été faits sur Amiga. Bon, c'était pas les Amiga
C'était
500, on est
sur.
d'accord.
Ouais, non, c'est comment il s'appelait ce logiciel
Oh, alors
Light
là.
quelque chose là. On en parlait beaucoup à l'époque, il a disparu ce logiciel, un logiciel de 3D qui avait réussi
Savais plus.
à qui était semi-amateur et qui avait réussi à percer dans certains films, dont Babylon 5.
Ouais.
J'avoue que le nom m'échappe, mais à l'époque il
Bon,
était vachement connu.
on le retrouvera, on le mettra en insert.
Voilà.
Comme ça. Ouais, donc voilà, c'est vrai que moi je me souviens effectivement, alors je sais pas pour toi si tu as connu, mais le vieux magazine Tilt, où tu avais
Bien sûr.
régulièrement les illustrations où tu voyais l'évolution au fur et à mesure des années 80-90 avec le pixel art et après la 3D qui est arrivée au fur et à mesure, quoi.
Moi je suis encore plus vieux, j'ai connu Hebdogiciel.
Oui, j'ai connu aussi,
Hebdogiciel.
bien sûr.
Ah, t'as connu aussi,
Ah
d'accord.
bah oui.
J'ai pas connu moi.
Hebdogiciel, j'en ai conservé quelques-uns, c'était extraordinaire. C'était vraiment. C'était quelque
Parce que
chose, ce
les
truc.
anciens Hebdogiciels ont fini à Micronews en plus après, je crois, de mémoire, enfin, quelque chose comme ça.
Oh, ça, je saurais pas te dire ça.
J'ai un peu lu la presse vidéo ludique, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'illustrations faites sur ordi, puis on a vu cette évolution se faire au fur et à mesure. Alors, je reviens effectivement sur cette activité de concept artiste hein, qu'on a découvert, hein, Antoine et moi, en parcourant un petit peu. Et on a vu que tu avais fait pas mal de jeux vidéo et de films, dont une participation sur le film de Christophe Gans, ça c'est La Belle et la Bête. Bah, écoute, si tu peux nous en parler un petit peu, rapidement.
Bah, écoute, le concept art, c'est très simple, c'est faire des illustrations pour la préparation d'un film ou d'un jeu vidéo. Des illustrations, donc, préparatoires. C'est pour ça qu'on appelle ça concept art, c'est la conception en fait. C'est le moment où on imagine ce que sera le film ou le jeu vidéo, et c'est très utile dans les œuvres de genre. C'est sûr que dans une œuvre réaliste, c'est pas hyper important. un film qui va se passer dans les rues de Paris, on n'a pas besoin de concept artiste. Par contre, un film qui va se passer sur une, je sais pas moi, une base sur la Lune en 2100, bah comme ça n'existe pas, il faut l'imaginer. Donc c'est là que les concept artistes et les designers interviennent. Et donc en général, on arrive au début d'une production, au moment où le réalisateur est encore en train de travailler sur le scénario. Et parfois, quelques éléments essentiels de l'équipe commencent à se former, donc le directeur photo, le chef déco, des gens comme ça, le responsable des costumes, qui commencent à arriver. Donc en gros, il y a souvent une équipe de 7-8 personnes qui commencent à réfléchir sur le film. Et donc il s'agit pour le concept artiste d'essayer de rentrer dans la tête du réalisateur. Et donc de beaucoup parler avec lui et de donc de donner vie visuellement aux idées qu'il a et que lui seul visualise pour l'instant, pour permettre aux
J'imagine.
autres intervenants de commencer à travailler dessus plus sérieusement et parfois même pour chercher des fonds. Donc sur un film complètement imaginaire comme par exemple tu viens de parler de La Belle et la Bête. Bon, bah, il y a plein de choses qui sont difficiles à se représenter. Quand tu veux vendre ton film à un financier, tu vas lui dire, ce sera comme ci, ce sera comme ça. Bon, le type, il n'est pas forcément capable de se représenter. Donc, si tu as des concept art à montrer, c'est bien aussi. Donc, ça sert pour la conception, ça sert éventuellement pour chercher des fonds, et parfois, ça sert même sur le plateau pour montrer aux acteurs ce qu'ils sont censés voir, puisque c'est des trucs qui sont faits en
Fond vert, ouais.
post-production après, en trucage. Et très souvent, pas même à chaque fois, ça sert en post-production. Pour réaliser les trucages, on dit bah voilà, il faut que ça ressemble à ça. Donc c'est quand même une étape assez importante en début de production.
D'accord. Et alors j'imagine qu'il doit y avoir quand même des dizaines, voire alors peut-être pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines d'esquisses de croquis, même si c'est numérique, hein, avant d'arriver à capter ce que veut un réalisateur ou des discussions de nombreuses réunions, quoi.
Oui, ça, il peut y en avoir beaucoup. Ça dépend de la production, ça dépend du temps qu'on a. Ça dépend du degré de finition que demande le client. C'est pas forcément le réal, hein. Ça peut être le producteur ou le directeur artistique. Et donc, s'il veut, parfois, il préfère avoir peu d'images mais très poussées, très très belles, pour pouvoir justement les montrer, par exemple, pour chercher des fonds. Et puis parfois, c'est le contraire. On préfère avoir beaucoup beaucoup d'images, pas forcément très détaillées, pas forcément même très belles. Ça n'a pas forcément besoin d'être beau, un concept art. Ça a besoin de montrer ce qu'on veut faire. Et donc, s'il y a un énorme besoin de design, beaucoup, beaucoup de choses à inventer, parfois on ne va pas faire des choses très, très belles en concept art. C'est ceux que je ne montrerai pas moi après sur Internet ou dans un artbook, mais qui peuvent être utiles en production, quoi.
Ouais, j'allais dire tout aussi
Ça dépend
important,
en fait.
si ce n'est plus, quoi. Ouais, ça dépend de la commande. Bah, ça renvoie un peu, alors j'enverrai à une autre vidéo, on mettra le lien dans la description, une vidéo sur Blade Runner qu'on avait faite, où on rappelle le rôle excessivement important de Sid Mead, hein, dans la conception du film lui-même, avec les échanges avec Ridley Scott, et ça se rapproche, bah, de.
C'est une
Enfin,
légende.
ça se rapproche.
Sid Mead, c'est pas une légende.
Ouais, clairement. Donc c'est en lien complet avec cette activité que tu as eue. Tu le fais plus du tout, du coup, maintenant, ça? Ou t'as quand même
Non,
peut-être
j'ai
encore des
complètement
engagements?
arrêté,
Ouais.
même si j'adorais ça, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc ça me prend déjà énormément de temps de faire les Lovecraft illustrés et d'écrire des romans en même temps. Donc faire du concept art, c'est pas possible. Le concept art, c'est très chronophage et c'est très énergivore. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'investissement, parce qu'il faut aller vite en général, et donc faut être bien concentré, et il faut vraiment chercher au fond de soi énormément d'idées créatives, faut que ça fuse en gros, quoi. Donc c'est un travail qui est usant, quoi, qui est fatigant. Donc faire ça en parallèle de projet personnel, c'est très compliqué, hein.
D'accord.
D'ailleurs, là, tu parlais de faut aller vite. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du temps que ça prend, par exemple, pour faire un concept art détaillé pour les gens qui connaissent pas du tout ce milieu-là?
Il n'y a pas de règle. C'est
Pas de règle.
le minimum pour ce qu'on appelle un speed painting, c'est-à-dire une esquisse très poussée en couleur. Le minimum, ça va être quand même une journée, quoi. Des fois, on peut en faire deux dans la journée s'ils ne sont pas trop compliqués, mais en dessous, c'est quand même compliqué. Et si on veut faire un concept assez chiadé, il faut, moi, il me faut 3-4 jours. Après, ça dépend des artistes, en gros un par semaine, quoi, voilà, pour faire simple.
OK, oui.
Et si c'est quelque chose de très poussé, très compliqué, avec une grande définition, beaucoup de détails, beaucoup de design aussi, des choses qu'il faut inventer, pas seulement réaliser, pas seulement dessiner, il faut aussi les inventer. Bah, parfois, ça peut être énorme. On peut se retrouver avec 15 jours, 3 semaines sur une image, c'est tout à fait possible. Okay, la moyenne, c'est, on va dire, 4 jours, voilà, pour faire
4
ça.
4 jours, ouais, oui. Okay. Ça reste conséquent, voilà.
Ouais. Parce qu'on rappelle que du coup, les vidéos, quand vous tapez speed painting sur YouTube, les artistes le disent bien, c'est des vidéos accélérées. C'est pas le vrai travail. Sûr. Ça se fait pas en une heure, on est d'accord.
Après, ça dépend complètement des artistes. Hein. Il y a des gens dont le style leur permet d'aller très vite. Voilà. Et puis d'autres qui vont encore plus lentement que moi. Moi, je suis dans la moyenne. Voilà, je suis ni le plus rapide, ni le plus lent.
Mais du coup, ça nous permet d'avoir une petite transition sur le fait d'être passé en concept art à l'illustration. Et je passe le témoin à Antoine.
Voilà. Parce qu'on a parlé d'illustration. Bah, un des travaux sur lesquels tu es très connu, en tout cas, il y a beaucoup pour le public déjà qui nous suit, c'est tes illustrations sur les romans de Lovecraft. Comment t'arrives à représenter des idées, des bestioles qui sont par définition normalement indescriptibles, indicibles, bref, insérer tous les adjectifs lovecraftiens avec cible dedans.
C'est une question qu'on pose souvent parce qu'elle est logique. Comment... Quand on connaît un peu l'œuvre de Lovecraft, c'est vrai que ça saute tout de suite à l'esprit. On considère en général Lovecraft comme étant il est souvent défini comme étant l'auteur de l'indicible, de l'indescriptible, parce que c'est vrai qu'il passe son temps à le dire, mais en fait c'est pas parce qu'il passait son temps à le dire que c'est vrai. Moi je considère que c'est un peu un cliché, mais un cliché tout à fait légitime, hein, il est compréhensible ce cliché, parce qu'en fait quand on lit Lovecraft concrètement, il décrit énormément. Donc c'est une posture d'écrivain, c'est un effet stylistique pur et simple de dire ce que voit mon personnage, c'est indescriptible. Voilà, c'est tellement horrible que les mots ne peuvent pas le décrire. Mais on sait très bien qu'en stylistique, quand on commence à dire qu'une chose est indescriptible, on a déjà commencé à la décrire. Donc c'est juste un effet de style. Bon. Et chez Lovecraft, moi j'ai coutume de dire qu'il y a deux branches. Il y a, parce que son œuvre n'est pas très grande, donc c'est pas très difficile de faire le tri. Il y a en gros les nouvelles assez courtes, qui elles sont effectivement très mystérieuses, plutôt dans l'évocation et dans le poétique, et assez peu dans la description, tout simplement parce qu'elles sont courtes, donc il n'y avait pas le temps.
On pense à Dagon par exemple.
Oui, oh Dagon, c'est pas la pire dans le genre, mais il y en a où vraiment là, on saurait pas quoi dessiner. Quoi. Et à l'inverse, il y a les nouvelles plus longues, plus connues aussi, plus épiques, qui ressemblent presque à des romans d'aventure, et qui là sont très descriptives, parfois trop. Les montagnes hallucinées.
Ah oui, la description des choses.
Je sais que j'aime ce récit, mais ce n'est que de la description. Les montagnes hallucinées, c'est littéralement que de la description. C'est deux types qui se baladent dans des ruines et qui racontent ce qu'ils voient. Voilà. Donc, pour un illustrateur, ce n'est pas un problème du tout d'illustrer ça. Donc, pour moi, c'est un faux problème, le coup de Lovecraft et de l'indicible. C'est, en fait, quand on regarde clairement, concrètement, phrase après phrase, ces nouvelles, on trouve largement de quoi illustrer, sans problème.
Même dans l'Appel de Cthulhu, d'ailleurs, qui est la plus connue, il y a la description de Cthulhu avec la rencontre avec le bateau, etc. C'est de mémoire, ça y est dedans.
Bien sûr.
Oui, c'est assez bien décrit, c'est vrai. Mais du coup, tu nous as parlé justement tout à l'heure que tu préférais, toi, le dessin, maintenant tu le faisais plus en virtuel que traditionnel, mais pour des illustrations comme celle-ci, par exemple sur les Lovecraftiens, il y a une technique que tu préfères, c'est un mélange de tout, tu t'y prends comment ?
Tout dépend du résultat que j'ai besoin d'obtenir. Parfois c'est 100% Photoshop. Je commence mon croquis dans Photoshop, je monte l'image petit à petit et je la termine dans Photoshop. Point barre. C'est même la plupart du temps. Parfois, je vais avoir besoin d'un peu de 3D, notamment dès qu'il commence à y avoir de l'architecture un peu complexe. Je vais faire des bases 3D relativement simplifiées sous une vieille version de 3DS Max qui traîne encore chez moi et qui va me permettre d'appuyer ma perspective, de plaquer quelques textures, mais c'est vraiment très sommaire, hein, c'est repeint par-dessus. On voit jamais la 3D dans l'image finie, ce serait horrible. Horrible par rapport à ce que je fais en 3D, moi, parce que la 3D peut être très belle. Et parfois, je fais même de la 3D en réalité virtuelle, puisque je n'ai jamais réussi à me mettre à ZBrush. Je m'ai toujours rebuté ce logiciel. Et il y a un équivalent très simplifié sur en réalité virtuelle qui s'appelle Medium. Ça a changé de nom récemment, parce que ça a été racheté par Adobe. Je crois que c'est Adobe Medium, d'ailleurs. Ça n'a pas vraiment changé de nom. Qui est une sorte de ZBrush très très simplifié et qui, moi, me permet de faire du ce qu'on appelle du blockout, c'est-à-dire de la 3D très rapide et très simple, en peu de temps, sur soit des créatures, soit des architectures, notamment pour les architectures en ruine. Donc celles qui sont plus proches de l'organique que de l'archi classique, où tout va être régulier, bien aligné. Non, en ruine, au contraire, on a besoin que tout soit abîmé, pas aligné. Donc là, avoir un logiciel un peu dans le style ZBrush, qui permet de manipuler rapidement des éléments, c'est assez pratique. Donc ça, je m'en sers pas mal. Et parfois, plus rarement maintenant, je le faisais pas mal au début, moins maintenant que je peux modéliser en VR, justement, je faisais des sculptures en plasticine. La plasticine, c'est une pâte à modeler professionnelle qui est utilisée par les designers de créatures en effets spéciaux, qui permet de faire des sculptures très précises, et c'est un matériau qui est très souple d'utilisation, qui est très très pratique. Et donc ce que je faisais en 3D, je le faisais en plasticine. Donc j'allais très très vite pour faire notamment les créatures assez simplifiées. Après, je cherchais des angles en photo, je cherchais des lumières, et ça me permettait de gagner beaucoup de temps pour avancer dans l'image. Donc c'est vraiment une technique qui s'adapte, une technique mixte, qui s'adapte en fonction de chaque image.
Et avant de passer au reste des questions sur l'illustration, parce que ça a été édité chez Brajlon, comment s'est faite la rencontre avec Brajlon, justement ? C'était une commande ou c'était un démarchage ? Comment ça s'est passé ?
Ah non, c'est un projet que je portais depuis longtemps. Et voilà, quand j'ai commencé à y réfléchir, j'ai fait un dossier pour les éditeurs avec une dizaine de planches, en gros. Mmh. Et les premiers éditeurs m'ont refusé pour la raison complètement aberrante pour moi que Lovecraft, c'est un marché de niche, que ça intéresse très peu de gens. Mmh. Et en gros, c'était des gens de ma génération et qui avaient connu Lovecraft au début, dans les années 80-90. Mmh. Et ils étaient restés sur l'idée que c'était un truc underground, Lovecraft. Que c'était un truc pour les joueurs de jeux de rôle dans leur cave. Et puis c'est tout.
Ouais. Ils ont raté un truc là.
voilà, ils ne se sont pas rendus compte qu'entre-temps, c'est devenu de la pop culture. Cthulhu, tout le monde connaît Lovecraft. Le nom est peut-être moins connu, mais l'univers de Lovecraft est très connu. Mmh. Et donc j'ai fini par en parler à Stéphane Marsan, le patron de Brajlon, parce qu'à l'époque, on était en discussion pour publier L'effet domino, mon deuxième roman. Et Stéphane Marsan, lui, il vendait beaucoup de Lovecraft chez Brajlon.
Oui.
Et il savait, lui, que ça marchait très bien. Donc quand il a vu le projet, il a dit « Ok, banco, tout de suite. Ta carte blanche, on le fait, il n'y a pas de problème. »
On rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs, Brajlon était en collaboration avec les éditions Sans Détour, qui éditait la V6 de L'Appel de Cthulhu. Et il y avait eu donc le retour, il y avait une nouvelle traduction, je crois, des nouvelles de Lovecraft chez Brajlon.
Absolument.
Je te laisse continuer, mon cher Antoine.
Bon. Bah, du coup, plus récemment, dans le milieu de l'illustration, il y a un sujet qui fâche un petit peu, je sais, on en parle souvent, c'est le rapport entre les illustrateurs et les algorithmes de dessin type Midjourney, ce genre de choses. On a vu pulluler littéralement ces 3-4 derniers mois sur les réseaux sociaux.
Eh oui.
Voilà. Donc, nous, on ne va pas le cacher, moi et Fred, on n'est pas très fan de ce truc-là, pour rester très poli.
Pour plusieurs raisons, en fait.
Plusieurs raisons, aussi bien le machin, mais c'est surtout parce que d'un point de vue moral, c'est très discutable pour nous.
Ouais. Et juridique, juridique, qui est ma formation de base, c'est totalement du vol et du pillage, au sens du droit d'auteur.
On appelle de la contrefaçon.
Exactement.
Oui, voilà, donc, clairement.
C'est déjà la base.
En fait, après, du vol.
On va pas discuter de la notion de beau, de savoir si on trouve ça sympa ou pas à regarder. Il faut reconnaître que les algos font des progrès assez démentiels, c'est clair, mais c'est des algos qui sont basés sur du vol. Alors, on sait que tu es sur les réseaux, que tu es un peu à l'avant-garde de mettre ça en avant, justement, que c'est un danger pour les créateurs, clairement. Donc, voilà, juste pour nous refaire un petit point sur ta position là-dessus.
Je vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'il y en aurait faudrait toute l'interview pour ça.
Ouais, je pense.
D'ailleurs, les gens qui veulent connaître ma position détaillée sur ces questions, j'ai publié une première tribune dans Numérama fin d'année dernière. Et après, je l'ai updaté, upgradé. J'ai fait, on peut trouver facilement sur mes profils de réseaux sociaux, c'est à date de début de l'année.
J'ai fait
un balayage en 10 points, en 10 pages plutôt que 10 points, de tous les problèmes que ça pose. Parce que ça pose des problèmes à tous les niveaux, philosophiques, économiques, juridiques, moraux, artistiques, enfin, tout ce que sociétaux. Ça pose énormément de questions. Le débat est souvent biaisé parce qu'il est soit mené par des gens qui sont de parti pris parce qu'ils trouvent que c'est génial et que c'est une innovation incroyable et qu'ils ne comprennent pas qu'on gueule là-dessus et qui, du coup, tout de suite traitent ceux qui sont contre ça d'anti-progrès, d'anti-innovation. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est tellement idiot que c'est... Allez lire ce que j'ai écrit là-dessus. Ce sera plus simple.
J'ai eu droit à du vieux réac, hein. Ça va.
Oui, bien sûr, le coup du boomer, tout ce qu'on veut, etc. Enfin, bon, je suis d'ailleurs souvent, parfois, les bras m'en tombent, parce que je peux comprendre qu'on se pose des questions et qu'on soit parfois dans la contradiction même, quand c'est argumenté, ça ne me pose pas de problème. Et parfois, j'ai eu aussi, je ne vais pas dire des échanges, parce que je ne réponds même pas dans ces cas-là, mais des commentaires où j'étais étonné de voir qu'il y a une partie des gens, je pense très minoritaire, mais qui existe quand même, qui haïssent les artistes, qui les détestent. Et ça, j'avoue que ça m'a stupéfait. C'est-à-dire, ouais. Je sais très bien qu'il y a des gens qui détestent les hommes politiques, qui détestent les journalistes, etc., pour des raisons folles, bien sûr, hein, mais ça, je le sais. Mais des gens qui détestent les artistes, ça, j'avoue, j'étais pas prêt pour ça. Et au nom de quoi ? Au nom de... Ah, vous avez de la chance, vous avez du talent, vous êtes des privilégiés, vous nous faites chier. Enfin, avec les IA, on peut se passer de vous.
Ah ouais, quand même, à ce point-là. Oui, pas
c'est violent,
ça,
là.
Ah ouais.
Je l'ai vu plein de fois. Et bande de privilégiés, enfin, je te fais la version aimable, hein, parce que c'était.
Oui.
Tu vois, c'était le niveau d'argumentaire d'un complotiste, hein, avec le même vocabulaire, etc.
Les crypto-bros, donc, là, comme on les appelle.
Ouais, les. Ouais. Et donc, ça, j'avoue que ça m'a. Vraiment, j'ai du mal à comprendre, quoi. C'est, dans la tête de ces gens, on est une espèce d'élite qui s'empiffre, qui gagne vachement d'argent, comme si on était Jeff Bezos, quoi, tu vois, et qui, ouais. Du coup, essaie de défendre un privilège. Ah, les IA permettent de faire ce que nous, on fait. C'est, pour eux, c'est comme si on disait « Ah non, ils vont prendre notre argent. » Non, c'est pas ça, la question.
La question, carrément, elle
est plus compliquée que ça. Et les points qui nous font réagir le plus, nous, les artistes, c'est qu'on prend notre travail sans nous demander l'autorisation ni notre avis, bien sûr,
ni rémunération.
Pour gagner de l'argent. Ces entreprises le font pour gagner de l'argent. Hein, au début, il y avait une espèce de bullshit informationnel. Oui, c'est une expérience, c'est scientifique, c'est à but non lucratif. Tu parles. Midjourney, c'est pour faire de l'argent. Hein.
Voilà. Ouais, on a la même chose avec ChatGPT maintenant pour l'écriture. Hein.
C'est exactement ça.
Certains pensent que c'est de l'expérimentation, mais non, pas du tout.
Et bien sûr, c'est la même mafia. C'est des gens qui essayent de mettre un pied dans la porte, et une fois qu'ils sont à l'intérieur, on ne peut plus les enlever. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, à mon avis, malheureusement. Mais donc, nous, nous, les artistes, le premier truc qui nous révolte, c'est ça. C'est attendez. Si tu veux utiliser mon travail, que ce soit pour faire de l'argent ou pas, d'ailleurs, c'est pas la question. Je suis désolé, il faut me demander mon avis. Sinon, il y a un petit problème.
Pour info, d'ailleurs, j'en profite. Hein. Le fond d'écran que vous voyez là, derrière nous, qui est le travail de François, on lui a demandé son autorisation avant de le mettre. Et ça devrait être la base pour tout à chaque fois. Enfin, je pense que c'est toujours important de le rappeler. De ce reste, parce que comme je te disais, j'ai une formation de juriste en droit d'auteur à la base, et chez les maisons d'édition, on a les sessions acquisition, on a régulièrement des questions de gens qui sont quand même un petit peu informés en tout cas, et qui demandent des autorisations. Et je pense qu'avec ces outils-là, on l'oublie aussi. Pareil pour les musiques, il faut toujours citer, ce qui est un peu normal quand même, quoi.
Bien sûr. Moi, je suis toujours étonné de la méconnaissance du grand public de ce qu'est le droit d'auteur. Qui est souvent vu comme une espèce de privilège. Voilà, c'est un truc exorbitant. Alors que non, c'est juste le mode de rémunération d'un artiste. C'est tout.
Ah oui,
c'est comme si je disais, comment ça, un salarié touche à un salaire ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est quoi ce privilège ? Ben non, quand on travaille,
C'est les gens qui savent pas qu'avant, avant, les artistes vivaient de mécénat, enfin de ce qu'on voulait bien leur donner.
Voilà. Un artiste, par définition, ne peut pas avoir de salaire. Donc, enfin, il y a des exceptions, mais c'est rare. Donc, on est rémunéré sur le fait de vendre, non pas nos œuvres, mais le droit d'utilisation de nos œuvres. Voilà. Donc, moi, quand je fais une image, je cède le droit d'utilisation, par exemple, à Bragelonne, qui a le droit d'en faire un livre, de le publier, et qui, en contrepartie de ce droit, me reverse une partie des ventes. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Et si ça n'existait pas, eh ben, tous les gens qui trouvent que c'est un privilège exorbitant et qui sont très contents d'avoir un joli bouquin illustré, ben, ils ne l'auraient pas. Donc il faut bien comprendre que le droit d'auteur, c'est juste une façon de rémunérer les gens. Ce n'est pas un privilège, quoi. Et par extension, pas mal de gens ne comprennent pas que quand on met une image sur Internet, c'est pour avoir le plaisir de la partager avec les gens qui aiment le travail qu'on fait. C'est en aucun cas une autorisation d'en faire ce qu'on veut. Donc, par exemple, un éditeur qui ne me connaît pas n'a pas le droit de récupérer mes images sur un réseau social et de la mettre en couverture de ses livres sans me demander mon avis. Il n'a juste pas le droit. Voilà, ça s'appelle du vol. Bon, et ce que
fait... Je ferai un petit recommandé.
Voilà, et ça m'est déjà arrivé. Hein. Et tu sais, des fois, on se dit pas vu, pas pris, quoi. Et ce que font ces entreprises qui font des générateurs d'images par IA, c'est de prendre tout ce travail fait par tous les artistes du monde depuis je ne sais pas combien d'années qui sont sur Internet, et à mon avis, ils ne font pas le tri, ils prennent aussi toutes les images personnelles de tout le monde qui traînent au passage, parce que je ne vois pas comment ils feraient la différence.
Je
sur la plage en maillot de bain, de vacances, ils les prennent aussi, et ils s'en servent pour entraîner leur pseudo-IA, moi ça m'énerve toujours d'appeler ça l'intelligence, mais bon.
Oui, c'est des algorithmes.
Voilà, ils prennent ça pour entraîner leur pseudo-IA, et comme si on avait donné le droit. Non, c'est pas parce que je l'ai mis sur Internet que t'as le droit de le prendre. Donc ça, c'est clair, c'est simple. Quoi. Donc le premier point d'achoppement, c'est ça. Et le deuxième... Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que je l'ai fait dans une interview récente, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ça. Le deuxième problème, il est pour l'avenir de l'art. Si un artiste existe, si un artiste comme moi existe, c'est parce qu'il a débuté un jour. Voilà, je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais pour exister, il faut débuter. Pour débuter, il faut, comment expliquer ça, avoir un travail à sa mesure. Quand on débute, on n'est pas très fort, on ne peut pas demander des salaires mirifiques. Et donc, on prend un peu ce dont les autres ne veulent pas, une couverture dans un roman pas terrible pour une toute petite maison d'édition qui va être payée une misère. Quelques images, je me souviens, quand j'étais très jeune, j'avais fait des images intérieures pour, je ne sais plus si c'était Cassius Belli ou... Comment ça s'appelait ? Backdraft, je crois.
Un autre Backstab.
Journal, genre Cassius Belli.
Backstab.
Et je ne me souviens même plus combien c'était payé, mais je suppose que c'était une misère. Mais ce n'est pas grave, parce que on met le pied à l'étrier des jeunes artistes comme ça. Tu commences, tu fais un truc pas terrible, et puis le suivant, il est un peu mieux, et puis ainsi de suite. Et puis 10 ans après, tu as un artiste confirmé. Voilà. Tu peux pas commencer tout de suite en étant un artiste confirmé. C'est juste débile. Voilà, c'est absurde de penser ça. C'est comme si tu disais, Usain Bolt, à 16 ans, alors qu'il commence à s'entraîner pour devenir un athlète, bah boum, 6 mois après, il devient champion du monde. Non. Il a fallu, j'en sais rien, je ne le connais pas, mais j'imagine une dizaine d'années d'entraînement quotidien. Et donc, si on enlève ça, pourquoi on enlèverait ? Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Les IA, ce n'est pas tout de suite, vu le niveau qu'elles ont, qui est tout à fait bluffant, techniquement, qui artistiquement est quand même encore assez dégueulasse pour l'instant. Les images sont quand même assez
ça demande un gros travail
de retouche encore. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour des projets de prestige. Donc, les bouquins illustrés par Lovecraft que je fais, ils ne sont pas menacés pour l'instant par les IA, parce qu'avant de réussir à faire ça, il va falloir s'accrocher coco. Hein, pour lire le texte de Lovecraft en détail, le comprendre profondément et retranscrire quelque chose d'artistiquement valable, ce n'est pas tout de suite qu'on va faire ça avec Midjourney. Faire des concept art pour un projet comme La Belle et la Bête avec Christophe Gans, ce n'est pas tout de suite qu'on va faire ça avec Midjourney. En revanche, une illustration pas terrible pour un bouquin pas terrible payé une misère, et ben que ce soit un éditeur de jeux de rôle, un éditeur de romans, un éditeur de jeux casual pour téléphone, des gens qui ont des tout petits budgets, qui sont pas forcément passionnés par l'aspect artistique de la chose, parce qu'il y a ça aussi des fois, pour eux c'est pas important des fois, et ben pour eux c'est beaucoup plus simple d'aller chercher sur Midjourney, de payer $50, de faire un petit prompt vite fait, et puis hop, on a une petite image un peu clinquante, parfois assez vulgaire, il faut bien le dire, mais bien clinquante, hein, qui tape, qui aguiche bien dans le chaland, qui tape dans l'œil, et ben ça suffira. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va fermer la porte à tous les petits jeunes qui auraient pu démarrer avec ces petits jobs pas très valorisants et gravir la pente petit à petit. Donc, je ne sais pas combien ça va concerner. Est-ce que ça va être 5%, 50% ou 100% des jeunes artistes qui ne pourront plus faire leurs premières armes? Mais le risque, il est réel. On ne peut pas savoir ce que ça va donner. Et je ne veux pas être alarmiste. Souvent, on me dit que je suis alarmiste. Mais je ne suis pas très optimiste, moi.
Ça va vite, surtout.
Ça va très vite. Donc si les petits jeunes d'aujourd'hui, on les empêche de démarrer, ben, ils vont laisser tomber parce qu'il faut bien gagner sa vie pour payer ses factures. Ils ne vont plus devenir des artistes confirmés. Et donc dans 10 ou 15 ans, à part les vieux comme moi, ben, il n'y aura plus de nouveaux artistes. C'est le risque. Donc je ne dis pas que ça va se produire, mais c'est
une possibilité.
Loin d'être impossible. Voilà. Donc faut pas non plus négliger cet aspect des choses quand même.
C'est pour ça qu'on a voulu amener rapidement cette petite discussion aussi, hein. Comme tu dis, on va pas y passer 2 heures non plus, mais nous on l'a vu effectivement dans le monde du jeu de rôle, puisque c'est l'ADN de la chaîne Indécent Podcast, on l'a vu avec des éditeurs qui ont essayé, mais qui se sont fait vite rattraper par la patrouille, taper un peu sur les doigts, et du coup on a des éditeurs genre Chaosium, Paizo avec Pathfinder, qui maintenant mettent en avant le fait traîne pas de Midjourney et compagnie, Stable Diffusion et autres. Et pareil dans l'édition de livres. Le livre de poche fait prendre la main dans le pot de confiture, comme on dit. Pareil, ils ont dû se fendre d'un communiqué pour
moi.
Dire non.
Ben c'est moi qui ai fait un post sur le sujet.
Et ben voilà.
Qui les a obligés à clarifier leur position. Mais moi, je crois beaucoup aux vertus du name and shame. Nommer et faites honte. Voilà.
Je trouve qu'il ne
faut pas hésiter à le faire. Il faut vraiment, dès qu'on voit quelqu'un qui se permet de le faire et qui se dit pas vu, pas pris, ça va passer entre les mailles du filet. Il faut faire un post et dire regardez, telle boîte se gêne pas, nous fout des IA, est-ce que c'est ça que vous voulez? Voilà. Donc, assumez. Si vous assumez, c'est votre droit, vous avez le droit. Voilà. Bon, légalement, il y a plein de problèmes qui. Mais vous, pour l'instant, vous avez le droit. Mais assumez. Voilà.
Après, c'est vrai que moi, je sais que je fais partie de ceux qui sont très technophiles, hein, quand même, hein, qui voient aussi le.
Pareil,
pour avoir ces algorithmes, hein. C'est vrai que ça peut donner des. Comme c'est des discussions que j'avais eues avec d'autres personnes, hein, où on dit bon, on peut l'utiliser pour pareil, faire du concept avant de passer au dessin lui-même. Pourquoi pas? Mais ça implique que derrière, si d'aventure ça se généralise complètement, bon, c'est pas ce que je souhaite, mais à la limite, ce que je souhaite, on s'en moque un peu, mais. Ça implique derrière de rémunérer les artistes dont on pille les œuvres. Voilà. Bon, après,
il faudrait déjà, évidemment,
il y aurait
tu as
beaucoup
raison,
à dire.
Mais il faudrait surtout qu'on les pille pas. C'est surtout ça. Et donc, il faudrait leur demander l'autorisation.
Que les artistes les mettent volontairement.
L'autorisation d'injecter mes œuvres dans leur logiciel, je peux te dire qu'ils vont être bien reçus. Et hors de question. Donc, pour moi, si tu veux, d'un point de vue plus philosophique, si on élève un peu le niveau. Les IA, c'est la négation même de l'art. Voilà. C'est moi j'ai une.
C'est de l'industrialisation de l'art en fait. Quelque part.
D'une chose qui ne peut pas être autre chose qu'humaine. Voilà. L'art, c'est nécessairement humain. Philosophiquement parlant, ça ne peut pas être autre chose qu'humain. Je ne vais pas développer. Il faudrait trop de temps. Allez lire ce que j'ai écrit sur mes réseaux sociaux. Vous le retrouverez facilement. C'est très facile de démontrer que l'art ne peut être qu'humain. Voilà, une machine ne peut pas faire de l'art. C'est aussi simple que ça. Et moi, alors là, pour le coup, je vais donner raison à ceux qui pensent qu'on est une élite très très au-dessus de la mêlée, je sais pas quoi. pour moi, l'art, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Je vais pas faire dans le pathos, mais pour faire très simple, pour moi, c'est la meilleure raison de vivre qu'on ait. C'est l'art. Voilà. Évidemment qu'on a plein de petits plaisirs au quotidien, c'est super agréable de manger un Big Mac quand on a faim, mais ça reste de la survie. C'est-à-dire, on mange pour vivre. Voilà. Le seul truc qu'on fait qui nous caractérise vraiment en tant qu'être humain, c'est de consommer de l'art, c'est-à-dire quelque chose de fondamentalement inutile. Voilà. Quand on regarde un beau tableau, un beau film, quand on écoute une belle musique, ça ne sert à rien pour notre survie. On le fait parce que ça nous élève. Voilà. Et donc ça, c'est pas à prendre à la légère, moi, je trouve. C'est souvent, on a tendance à balayer ça d'un revers de main en disant ouais, bon, tu nous fais chier, ça va, c'est que de l'art, quoi. Ben non, moi, si on m'enlève l'art, s'il n'y a plus d'art, ben, à quoi ça sert de vivre les 80 ans si tout se passe bien, qu'on va passer sur Terre? À quoi ça sert de les vivre? C'est juste, on se lève le matin, on se nourrit, on dort, on se soigne quand on est malade, et puis un jour on meurt. Bon, c'est sympa, hein, il y a des moments, c'est sympa,
C'est
mais
de la
c'est pas
survie pure et
suffisant.
dure. Mais c'est vrai
Voilà.
qu'en
Si
plus, il y a les...
entre-temps, on a vu un film magnifique, si entre-temps, on a écouté une œuvre magnifique, on a lu un livre magnifique, et ben là, ça valait le coup de vivre. Voilà.
Ça
Donc,
nous touche, ouais.
moi, tous ces tech boys qui se pointent avec des IA et qui, avec des gros sabots et qui risquent de saccager le monde de l'art, parce que c'est ça le risque, ils risquent de le saccager, moi, ça m'agace un peu. Je prends pas ça à la légère, quoi.
Non, non, non. Mais après, voilà, je renvoie à tous ceux qui regarderont l'émission, aux derniers travaux historiques hein, sur l'art pariétal et même l'histoire de la musique, hein, puisqu'on retrouve des traces d'instruments de musique, de ce qu'on appelle les peintures rupestres et tout, qui remontent à quand même à quelques
Bien
dizaines de
sûr.
milliers d'années. Donc ça
Bien
date
sûr.
pas d'aujourd'hui non plus, quoi, hein, qui fait que ça nous caractérise. Et en même temps, c'est une espèce de lien spirituel avec des esprits, des dieux, ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment quelque chose qui caractérise l'humain. Donc c'est vrai que de...
Oui, spirituel, je n'irai pas jusque-là. Ça, chacun peut le
Je
voir
parle des
comme il veut.
origines,
Mais...
hein, en tout cas, hein,
Oui, je comprends.
beaucoup moins
Mais
maintenant, mais voilà.
clairement, c'est l'activité qui nous élève. Voilà. Moi, j'en vois pas d'autres. Voilà,
La
sinon, on fait quoi?
cuisine.
On fait la guerre. Non, la cuisine, c'est tout à fait louable et respectable, la
C'est
gastronomie.
presque de l'art.
C'est presque de l'art, mais ce n'est pas de l'art.
Non, non.
Parce qu'il n'y a pas de sens. Voilà, il n'y a pas de sens. Et surtout, c'est nécessaire. On ne peut pas. Y a, évidemment, si on est plus subtil, parce que là, j'y vais à gros traits, mais il y a une partie d'artistique dans la gastronomie. Il y a
Oui, tout à fait.
une
Mais il y
dose
a un
d'artistique.
courant, hein. Il y a un courant de chef
Mais
qui fait
n'empêche
de la
que
photo
ça
et tout. Ouais.
reste. Mais ça reste un besoin vital. Voilà. Écouter du Bach, écouter je sais pas moi, du Genesis, je dis n'importe quoi, c'est
Radiohead.
pas un besoin vital. On le fait parce que ça nous élève. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc barrez-vous avec vos IA. Ça suffit, quoi. Non, mais c'est vrai,
Voilà.
c'est un truc,
Oui.
c'est du plaisir pur. Voilà. On n'est pas obligé de le faire, on le fait parce qu'on aime ça. Et là, il y a des machines qui se pointent et qui disent, on va le faire à votre place. Mais attends, on vous a rien demandé, les mecs. Faites des machines, faites des programmes pour nous libérer des tâches pénibles, ravissantes, dangereuses. Ok, super, pour la médecine, super, mais qu'est-ce que tu viens foutre dans l'art avec des trucs qui vont automatiser la création, qui vont automatiser l'imagination? Ça n'a aucun sens. J'avais pris un exemple une fois pour rigoler en disant, c'est comme si tu disais, tu vas inventer une machine pour manger le chocolat à ta place. Ben non, moi si je veux manger mon chocolat, pourquoi on le ferait à ma place? Donc non, non, Zia, je suis désolé. Et comme toi, je suis un technophile invétéré. J'adore ça, la techno. Mais là, ça, c'est un dévoiement de la technologie pour moi. Voilà,
Ouais.
c'était mon quart d'heure énervé.
Non mais voilà, je pense que c'était aussi important parce que nous, ça nous permet aussi de faire passer un petit coucou aux collègues éditeurs dans le monde du jeu de rôle, hein, parce qu'il y en a certains qui sont tentés. Mais c'est vrai que dans le milieu du jeu de rôle, conceptuellement, on arrive à le comprendre, Antoine et moi, je pense que tous les deux, on est un peu sur le même longueur d'onde, c'est que c'est un milieu qui a pas beaucoup de moyens financiers, parce que c'est un tout petit marché, hein. Et c'est vrai qu'il y a cette tentation d'aller vers des choses qui
Eh
sont...
ben oui.
Voilà. Donc voilà, on vous fait une
Eh
spéciale
ben non, il faut
dédicace
pas.
dans cette émission.
Voilà.
Voilà.
Il faut pas. Je vais même dire un truc qui va paraître pour certains un petit peu dur, mais qui est aussi la réalité selon moi, c'est que quand t'as pas de moyens, eh ben tu fais pas. Voilà. Il s'agit pas de
Ou
réserver.
autrement.
Là, tu prends l'exemple des jeux de rôle. Il s'agit pas de réserver la création de jeux de rôle aux milliardaires. Mais c'est juste que si moi, demain, je veux monter un projet, quel qu'il soit, et que pour ce projet, j'ai besoin de la contribution d'artistes, eh ben, ça ne me viendrait pas l'idée de contacter ces artistes en leur disant, j'ai pas d'argent, fais-le moi quand même, je te paierai plus tard si ça marche. Non, c'est à toi de te démerder pour que ton projet soit assez fiable, viable, pardon, pour que tu récupères des financements et que tu puisses payer les gens que tu veux faire travailler. Donc les gens
D'où
qui n'ont
le...
pas les moyens, parce que souvent dans le jeu de rôle, moi j'ai vu ça plein de fois, ou les jeux de cartes aussi, les mecs essayent de gratter des illustrations pour 100 balles par exemple. 100 euros. Ça n'a pas de sens. Mais 50, j'ai même vu ça une fois. On m'a proposé à 50 dollars faire toute une série de dessins, genre 200 dessins pour 50 dollars. Mais un peu,
Ok,
quoi.
bon,
Voilà, donc
bel
il y a un
essai.
moment, si, si tu veux, et encore, ils proposaient de payer, c'était déjà ça, tu vois. Donc, si tu n'as pas les moyens de te payer un artiste, il faut que tu repenses ton projet, c'est tout. C'est, il
faut ou alors, au pire, vous avez des banques d'images libres de droit. Ça existe aussi, quoi. Si vraiment.
Libre de droit pour une utilisation commerciale, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
En général, c'est libre de droit pour une utilisation personnelle.
C'est ça.
Mais si tu veux le mettre dans un projet commercial, là, tu sais pas libre de droit.
C'est un peu plus compliqué. Mais on peut toujours arriver à retomber sur ses pas. Donc voilà, c'était une spéciale dédicace pour nos collègues éditeurs qu'on apprécie par ailleurs. du coup, comme sur un des son podcast, on est des grands amateurs du pas de transition parce qu'on sait pas faire. On va passer à la partie. Ouais, c'est, on est comme ça. C'est la partie littérature, justement, ton travail d'auteur. Moi, personnellement, j'ai découvert à l'occasion, je crois qu'on était en plein Covid ou juste après, donc à la sortie de T'es Fouillé aux éditions Critique.
Ah, c'était en plein Covid, puisqu'il est sorti au moment du premier confinement.
Voilà, je confirme.
C'est pareil,
le bouquin s'est fait casser les pattes par le confinement.
Oui.
Malheureusement, il n'a pas trop mal marché, mais il aurait pu mieux marcher que ça si
avril 2020.
Il existait en librairie.
Oui, c'était compliqué. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai découvert, parce que on connaissait déjà les illustrations et autres. Et moi, je parle vraiment pour moi. Hein. J'ai découvert donc ton travail d'écrivain avec ça. Et après, donc j'ai enchaîné sur l'effet domino. Comme je le disais en préambule avant qu'on commence cet entretien, Dominium Mundi, je crois que c'est le seul que j'ai pas encore lu, donc autoflagellation prévue à la fin de l'entretien, bien entendu. donc voilà.
En fait, il y en a deux que tu n'as pas lu, puisqu'il y en a un qui sort. Donc, un jour, et que d'ailleurs, je viens de recevoir.
Ah, bah oui.
Ah.
C'est mes exemplaires. Ah. Donc, celui-là.
On se réserve les questions pour la fin, celui-là.
Voilà. Et donc, il y en a deux que tu n'as pas lu.
Non, je confirme. Donc, déjà, d'où ça t'est venu, cette envie d'écrire?
En fait, ce que je réponds à chaque fois à cette question qu'on me pose souvent, c'est tout à fait normal. Non, mais c'est normal. C'est pas courant, les illustrateurs qui sont aussi écrivains. C'est que, en fait, pour moi, c'est la même chose. Moi, j'ai une nature profondément artistique et j'ai toujours fait un peu tout. Donc, par exemple, à une époque, j'ai fait beaucoup de musique aussi. Et j'ai fini par arrêter parce que quand on se disperse trop, on fait tout mal. Donc, il y a un moment, j'ai dit, bon, ça suffit, la musique, c'est pas là où je suis le meilleur, donc autant que je laisse tomber. Donc, j'ai tout envie de faire, tous les arts m'intéressent. J'adore ça. Et en fait, dans ma tête, j'ai souvent analysé ça comme étant une envie universelle de raconter des histoires. C'est que je ne sais pas pourquoi j'ai envie de raconter des histoires. Quand j'étais petit, j'écrivais déjà des histoires complètes. Je me souviens qu'il y en a même une. J'avais écrit une histoire en 10 pages, je devais être en CM2, et je l'avais montré à ma maîtresse, elle a trouvé ça tellement incroyable qu'elle l'avait lu à la classe. Bon. Et donc, moi, j'aime raconter des histoires, et le dessin, c'est une manière de raconter des histoires. Quand on fait une illustration, alors en particulier celles que je fais sur Lovecraft, qui sont très détaillées, on raconte une histoire dans une image. Et parfois même, tous les dessinateurs vous diront ça, j'en suis sûr, si vous leur demandez.
C'est ce que j'allais dire.
Parfois même, dans sa tête, on se fait des dialogues. Parfois même on fait des bruitages. Hein. Moi, ça m'arrive de me surprendre comme un débile sur ma table de travail à être en train de dessiner, je dis n'importe quoi, une avalanche par exemple, et dans ma tête ou même parfois vocalement, à me retrouver à faire comme ça. Quoi. C'est vraiment, on vit, on se projette dans une image, un peu comme un mini univers virtuel. Quoi. Et donc, c'est pas différent d'écrire un roman que de faire une illustration. C'est juste l'outil, la méthodologie technique qui va différer.
Donc c'est la même technique, si tu veux, pour construire un roman qu'une illustration pour toi, du coup.
Non, c'est pas la même technique, mais c'est le même processus créatif.
Oui, voilà.
Ce qui se passe dans ma tête, c'est la même chose. Voilà. Mais évidemment, la technique est très différente, ça va de soi. Mais ça, c'est juste un apprentissage. La technique, ça s'apprend. Alors que le bouillonnement imaginatif qui se produit dans le cerveau, moi je sais pas pourquoi je suis fait comme ça quoi. Et la plupart des artistes vous diront la même chose, on a une espèce de trop-plein d'imaginaire et à un moment il faut que ça sorte. Voilà, donc faut que ce soit une illustration, un roman, une BD, de la musique, ce qu'on veut,
une sculpture,
il faut que ça sorte. Et ça remonte même à plus loin que ça, puisque moi j'ai découvert le jeu de rôle avec l'appel de Cthulhu, hein, ça surprendra personne, donc dans les années 80 et très rapidement, j'ai eu envie d'écrire des scénarios. Évidemment, ça ne surprendra personne. Et donc, les premières histoires que j'ai écrites vraiment, de manière sérieuse, c'était des scénarios pour l'Appel de Cthulhu. Et j'avais même essayé d'en faire éditer un recueil chez Jeux des Cartes à l'époque. Mais malheureusement, je suis arrivé trop tard. Pourtant, je pense que le recueil n'était pas trop mal. Mais je suis arrivé trop tard parce que c'était le moment où le jeu de rôle commençait à décliner. Il y a eu un moment dans les années 90, début des années 90, où Magic est arrivé et le jeu de rôle s'est complètement écroulé.
Il a périclité au fur et à mesure.
Et complètement. Et donc, ils m'ont dit non, écoute, on n'en vend pas en ce moment, donc on ne le fera pas. Et puis, je pense que c'est remonté depuis le jeu de rôle.
Depuis 2011, 2012, 2015, dans ces eaux-là, ça a commencé à
revenir. Ouais, il y a un petit revival quand même. Et parce que moi, je pensais que ça allait complètement disparaître, et en fait, c'est toujours le cas.
T'étais pas le seul, j'étais
un petit
cœur à l'époque. Et c'est vrai qu'on... Alors toi, Antoine, qui est depuis plus longtemps que moi, je dirais. Mais moi, j'ai cru qu'à un moment donné, ça allait disparaître, hein, clairement.
Oui, quand j'ai commencé, c'était déjà pas la période la plus dynamique du jeu de rôle. Je pensais pas que ça allait décoller, en fait. Hein. J'ai vécu le redécollage il y a 6-7
ans. Non, c'est très bien. Moi, je pratique plus le jeu de rôle parce que j'ai pas le temps. Mais c'est, je trouve que c'est un divertissement tout à fait noble. C'est peut-être même le seul divertissement aujourd'hui, de nos jours, à part la lecture peut-être, qui fait appel vraiment à l'imagination des participants. Ouais. Quand on regarde un film, il n'y a pas de place pour l'imagination, très peu. On projette directement l'imaginaire des créateurs dans la tête des gens qui le reçoivent. Quand on joue à une partie de jeu de rôle, même on peut avoir toutes les aides de jeu qu'on veut, etc., n'empêche qu'il faut se représenter ce qu'on est en train de vous raconter, c'est verbal. Et ce que je trouve magique, moi, ce que je trouvais magique à l'époque où je pratiquais, c'est on est 4 ou 5 autour d'une table, et si chacun est vraiment de bonne volonté, c'est-à-dire si on n'est pas en train de parler du match de foot de la veille, on arrive à créer un imaginaire partagé pendant quelques heures. Et parfois, ça peut être très fort. Moi, pourtant, ça remonte à loin, hein, plus de 20 ans, même 30 ans. Mais j'ai des souvenirs encore aujourd'hui de certaines parties qui sont aussi claires que des souvenirs de vacances ou de voyages, de lieux où j'ai été. Moi, je vois ces parties aussi clairement dans ma tête. Donc, c'est vraiment, je trouve, un divertissement tout à fait honorable. Et donc pour revenir à ta question initiale, j'ai commencé à écrire des scénarios, et donc je pense que c'est ça qui m'a donné un petit bagage technique d'écriture. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être réalisateur, donc je faisais des courts-métrages d'animation, et alors là, être réalisateur, faire des longs-métrages, c'est très difficile, et donc j'en ai eu marre des projets qui ne se montaient pas, j'en ai eu marre d'attendre, et un jour j'ai laissé tomber ça, tout ça en parallèle de ma carrière d'illustrateur. Et donc un jour, je me suis dit, tant qu'à faire, si tu veux raconter des histoires, le moyen le plus efficace et où tu n'as pas besoin de financement pour ça, comme pour faire un film, ça reste le roman. Et donc, je me suis lancé. J'ai fait Dominium Mundi. C'était en fait l'adaptation d'un scénario de long métrage dont je savais très bien qu'il ne verrait jamais le jour. Parce que
c'était
beaucoup trop cher. Et donc, j'ai fait ça pour le plaisir. Voilà. Ça s'est étalé sur une dizaine d'années. J'ai écrit ça sur mon temps libre. Et puis comme je me suis pris au jeu et que je l'ai fait avec pas mal de sérieux, au bout de 10 ans, j'ai essayé de le faire publier. Donc c'est comme ça que ça a commencé.
Donc Dominium Mundi est paru en 2 tomes aux éditions Critique. Donc maintenant, je crois qu'il est aux éditions... Alors, si je n'ai pas bêtise, c'est Pocket, Pocket Imaginaire.
Il y a toujours une intégrale chez Critique, mais si tu le veux en poche, il est chez Pocket.
Il est chez Pocket. Est-ce que tu peux nous parler justement du scénario, sachant que, comme je te disais, c'est le seul que... Nous n'avons pas lu. Voilà. Donc, j'avoue qu'on.
Je suis, comme souvent les auteurs, je suis le moins bien placé pour résumer mes livres, parce que je ne sais pas résumer une histoire que j'ai écrite. Si je l'ai écrite, celle-là, elle fait pratiquement.
Elle fait un petit paquet de pages.
1800 pages, je crois, version poche. Donc, si j'ai écrit 1800 pages, c'est que j'avais besoin de 1800 pages pour la raconter. Et je ne sais pas faire plus court. Alors, moi, c'est effrayant. Donc, ce que je peux, c'est éventuellement te dresser le contexte général, mais te raconter l'histoire, ça, je m'en serais bien incapable. Donc, le contexte, c'est un contexte post-apo relativement classique pour une trame de SF. Donc, il y a eu une grande guerre terrible qui a ravagé l'humanité, sur laquelle c'est un postulat que je ne détaille même pas vraiment dans le roman.
Ça sert de trame de fond,
On a compris ce que c'est que le post-apo, donc on va pas s'amuser à le résumer à chaque fois. Et en gros, l'idée, c'est que cette fois, le monde s'est écroulé, sauf l'Europe qui a été en grande partie épargnée. mais enfin qui est quand même qui était en ruine, et de ces ruines a émergé un nouvel empire qui est un empire chrétien. C'est la religion qui est revenue en force. À l'époque où j'ai commencé l'écriture de ce truc, ça paraissait vraiment de la science-fiction. 20 ans plus tard, c'est moins de la SF, malheureusement. Et donc la religion la plus stricte, hein, vraiment la religion intégriste, catholique en l'occurrence, est revenue en force, et on a donc un empire chrétien moderne, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui règne sur Terre. Et donc les populations sont revenues à un mode de vie quasi féodal. Et donc, en gros, l'histoire est un éternel recommencement, et que donc on se retrouve en Europe, donc au 20... Oh, j'ai oublié.
C'est 25e siècle. Je crois que c'est 25e.
Non, c'est pas si loin que ça. Non, c'est 2200, je crois, de mémoire. 2200. Donc le 23e siècle, voilà. Et avec un mode de vie, une organisation complètement médiévale, et y compris... Pour illustrer, pour appuyer vraiment sur le fait que l'histoire est un éternel recommencement, qu'on n'en sort jamais, on refait toujours les mêmes erreurs, ben j'ai repris carrément certains personnages historiques, comme si ils n'avaient jamais existé d'une certaine manière. Alors je donne une explication pour ça à la fin, mais je n'en dis pas plus que ça. Et donc on se retrouve avec un mélange qui, moi, m'intéressait, qui est un mélange de société féodale, avec tout le côté rétrograde et archaïque que ça implique, même si je sais que c'est en partie un cliché sur cette époque-là, et un mélange de très haute technologie, puisque la technologie, elle, on ne l'a pas oubliée. Donc au 23e siècle, on a la technologie du 23e siècle, pas du Moyen-Âge. Et donc ce mélange, moi je le trouvais très intéressant, et notamment pour le fait que la Terre est en grande partie inhabitable, et donc on cherche des nouveaux territoires à coloniser, et donc on arrive à construire les premiers moteurs, pas supraluminiques, mais qui permettent quand même de couvrir des distances assez grandes dans des délais raisonnables, et donc on envoie une première mission d'exploration autour de Proxima du Centaure, qui est donc l'étoile la plus proche de notre système solaire, qui a évidemment son cortège de planètes. Et sur l'une de ces planètes, la seule qui soit habitable, on envoie une première mission pour explorer. Et là, stupeur, on découvre qu'elle est déjà habitée. Il y a déjà une civilisation assez, je ne vais pas dire rudimentaire, ce n'est pas le bon terme, assez, pas primitive non plus, il ne faut pas exagérer, mais peu développée, disons. Et qui s'appelle les Atamides. Je vous passe les détails. Il y a une première prise de contact. Tout ça, c'est vu en direct à la télé de l'époque, bien sûr, en direct avec un léger décalage à cause de la distance. Et les gens découvrent, les populations terrestres, terriennes, découvrent avec stupeur que dans l'une des villes de cette civilisation étrange, qui leur paraît un peu primitive, on découvre un sanctuaire chrétien. Voilà, une espèce de vieilles bâtisses qui est là depuis des milliers d'années et qui est surmontée d'une croix chrétienne. Et dans ce sanctuaire, qu'est-ce qu'on trouve ? Une dépouille humaine, enveloppée dans un suaire, avec une vieille couronne d'épines toute desséchée. Incroyable ! On a découvert ce qui ressemble à la dépouille du Christ, sur cette planète. Et donc évidemment, le pape de l'époque, qui est une espèce de fou furieux intégriste, comprenant ça, dit « Cette terre est chrétienne ». Elle appartient donc au seul vrai peuple chrétien de l'univers, nous les humains, donc on va la prendre de force, même s'ils ne sont pas d'accord les Atamides, donc on décrète une nouvelle croisade. Donc ce livre a failli s'appeler une neuvième croisade. Et que le Dominium Mundi, c'était un concept philosophico-religieux du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge je crois, qui consistait l'idée, c'était que l'Église avait pour vocation à étendre la domination du Christ sur l'ensemble des peuples de la Terre, de dominer tous les peuples, Dominium Mundi. Et donc, cette planète n'y échappe pas. Et donc, le pape Urbain XI, je dois dire une bêtise sur mon propre livre, je ne l'ai pas relu depuis, donc ça commence à remonter, décrète une nouvelle croisade. On construit un vaisseau gigantesque, un vaisseau arche, qui s'appelle le Saint-Michel. On met 1 million de bonshommes à l'intérieur, on envoie tout ça vers la planète avec le but de la coloniser, d'éradiquer les Atamides et d'en faire la nouvelle Terre. Donc voilà, tu vois le temps qu'il m'a fallu pour te dire par quoi commence le livre. Donc, on peut dire que je ne suis pas bon pour résumer un livre. Et donc quand ça commence, on embarque avec les premiers croisés, et tout ce que je viens de te dire, on le découvre petit à petit hein, par différentes allusions. On embarque avec les premiers croisés à bord du Saint-Michel et tout le premier tome, c'est un huis clos dans cet énorme vaisseau monde, où on apprend à connaître les personnages. Et le deuxième tome, donc le premier tome, c'est un space-op, suivant l'expression consacrée. Et le deuxième tome, c'est le débarquement et la guerre elle-même contre les Atamines. Et avec, évidemment, on va découvrir des personnages principaux auxquels qu'on a appris à connaître, vont découvrir que tout n'est peut-être pas aussi clair que ce qu'on veut bien nous dire. Évidemment, sinon, c'est pas drôle. Et donc, le deuxième tome, c'est ce qu'on appelle un planète hop. On découvre cette planète, on découvre cette civilisation et leur lutte pour la survie face à l'envahisseur humain et sa machine de guerre bien huilée, quoi. Donc voilà, c'est un énorme pavé qui est une espèce d'absurdité pour un premier roman, quoi. Normalement, un premier roman, on fait un truc très court, voire des nouvelles. Oui, et moi, comme je suis un peu bête, je suis parti dans un truc de 2000 pages. Voilà.
Bon, ça fait un bon galop d'essai, comme on dit.
Oui, oui. Bah oui, en plus, le bouquin a trouvé son public, il a plutôt bien marché.
Oui,
donc,
oui on a vu qu'il avait été nommé à pas mal de prix littéraires, d'ailleurs.
Vraiment, c'est, pour de la SF française, c'était une très bonne vente. Et donc, ça a été pour moi une très très bonne surprise. Moi, je pensais que j'allais en vendre 200 et j'étais déjà content que le livre existe, tu vois.
Ouais.
C'était ça mon but, de faire un livre. Puis il s'avère que, en plus, les gens ont aimé, donc bah, super, c'est la cerise sur le gâteau.
Écoute, celui-là, quand on l'aura lu, on te fera un retour directement, ce sera quand même plus simple que lors de cet entretien. Le deuxième que tu as édité, alors là, moi, celui-là, par contre, je suis en plein dedans et j'avoue que j'ai du mal à m'arrêter, c'est L'effet domino.
Ah, t'as la version moche.
Oui, la version poche.
Ah oui, la version poche qui a été sortie n'importe comment et...
Ouais, mais je m'en fous, je la garde. Ah bah oui, je suis obligé de la garder, quoi.
Non, mais attends.
Voilà. Oui, j'ai vu qu'il y a une nouvelle édition.
Eh ouais. Bah ouais. Parce que chez Brajlon, ils avaient conscience quand même que c'était pas très joli. Donc on a fait une nouvelle couverture avec une petite dorure que tu vois qui bouge.
Oh, c'est joli.
Ouais.
Il est quand même plus joli. On va pas se mentir.
Oui.
Dès que je le récupère, on le fera dédicacer. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est dur de se débarrasser d'un bouquin qu'on a fait dédicacer. J'avoue.
Bah, ah oui, ça je comprends. Oui.
Donc celui-là, alors là, on est. Au début, je me souviens, parce qu'on s'était vu à Octogone, comme il disait, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé, parce que je n'avais pas lu le pitch ni rien. Hein. J'étais persuadé que c'était du fantastique, et effectivement, tu m'avais dit à ce moment-là que non, pas du tout. Je confirme, c'est du vrai policier 1907, avant les Brigades du Tigre. Et alors, c'est l'histoire donc, de Lassinière, hein, qui était un inspecteur de Rennes, qui se retrouve convoqué à Paris. Je vais faire le résumé du coup.
Ah super, je t'en prie.
Voilà, qui se retrouve donc convoqué à Paris par le préfet de police lui-même, donc le préfet Lépine, qui n'est pas que le fameux inventeur, le concours Lépine des inventeurs, et qui va devoir enquêter. Alors au début, il pense que c'est pour s'occuper de faire des rapports, etc., sur les fameux Apaches de Paris, qui ne sont pas aussi romanesques que ce qu'on peut voir de nos jours. Hein. C'était quand même une sacrée criminalité à l'époque. Et qui va en fait
de violence inouïe.
Ah,
on pense toujours que notre époque est très violente.
Non.
Les crimes de l'époque, c'était beaucoup moins atroce. D'une sauvagerie incroyable.
Ouais. Il n'y avait vraiment pas de loi, enfin rien du tout, quoi. C'était absolument immonde. Et il se retrouve à devoir enquêter en fait sur un. Alors à l'époque, on n'appelle pas ça les tueurs en série. Hein. Ça a mis beaucoup de temps en France avant qu'on comprenne que le fameux serial killer à l'anglaise, donc le tueur en série, ça existait déjà en France en fait.
Et il va devoir... Le terme serial killer. Ouais. Il a été inventé par les Américains dans les années 1970. Donc il est extrêmement
tardif.
Récent. Ouais. Voilà. Et donc, même les meurtres en série, tout ça, c'est vraiment pas du tout une expression qu'on employait. Et si tu lis des articles de l'époque sur Jack l'Éventreur, tu verras jamais ce genre de terminologie. Et moi, j'avais fini par trouver dans mes recherches de documentation une expression que j'avais trouvée charmante. Charmante.
Oui, oui.
Oui.
On se comprend, hein. Charmante de désuétude, qui était assassin à répétition.
Oui, exactement. Ça m'a marqué, celle-là, ouais.
Je ne me souviens même plus où je l'avais trouvé, mais je l'avais trouvé super, cette expression. Mm. Et donc voilà, on appelait ça, certaines personnes appelaient ça déjà des assassins à répétition.
Et là, du coup, on se retrouve donc avec un assassin à répétition, qu'on va finalement appeler Double Domino, hein, puisque donc il massacre
le domino.
Et on retrouve du coup des dominos dans la gorge de ses victimes. Et comme ça commence à pulluler un petit peu trop, donc on fait appel à ses talents, mais pas qu'à lui. Il y a deux autres personnes qui vont lui être associées. Donc il y a Albertine, une jeune femme féministe engagée, déjà pour l'époque, hein, et qui a un esprit très clair, très pointu, très affiné pour analyser les choses. Et il y a aussi donc, le jeune Thomas aussi qui est avec. Donc pareil, et en fait, ils ont été choisis tous les trois parce qu'ils n'ont pas d'attache, ou très peu. Parce que la particularité de ce tueur, c'est que le début du livre hein, que je vous dis, donc je ne spoil rien du tout. Voilà. Et, en, Leur particularité, c'est que ce tueur-là, en fait, il s'attaque aux flics directement et à leur famille.
Aux proches. Aux proches. Exactement. Alors, si je peux me permettre, proches, je laisserai finir ton résumé après.
Vas-y.
Je vais expliquer la méthodologie, enfin, ce principe-là, parce que dans les romans de tueurs en série, hein, qui sont c'est un genre en soi, la méthode du tueur, c'est toujours c'est souvent ce qui fait l'intérêt de la chose.
Ouais.
Et là, en l'occurrence, on est face à un tueur en série qui s'en prend, je vais essayer de ne pas spoiler, à des proches de personnalités célèbres, pas aux personnalités elles-mêmes. Donc, un compositeur célèbre de l'époque, un homme politique célèbre, un peintre célèbre, etc. Rapidement, les enquêteurs comprennent que les crimes qu'ils ont découverts, là, en fait, c'est, à chaque fois, là, cette personne est le proche d'une personnalité célèbre, ce qui fait que l'affaire devient assez rapidement sensible politiquement.
Et, oui.
Et le problème auquel est tout de suite confrontée la police, c'est que chaque enquêteur qu'on va mettre sur cette enquête, quelques jours après, toute sa famille est sauvagement assassinée. S'il n'a pas de famille, ses amis, et ainsi de suite.
Et donc, voisins de palier, des choses comme ça. Ouais.
Voilà, et donc c'est une méthode très, très efficace de protection pour le tueur en série, parce que très rapidement, plus personne ne veut se charger de cette enquête par peur pour ses proches. Et d'où l'idée du préfet Lépine, et donc là effectivement on ne spoil rien puisque c'est le début du livre, de faire appel à un enquêteur, évidemment qui est censé être brillant, hein, c'est pas le premier venu, mais qui a la particularité de ne pas avoir de famille du tout, et même de ne pas avoir d'amis, parce qu'en gros, il a une personnalité un peu difficile, un peu rugueuse.
Oui. C'est un asocial complet.
Et qui fait qu'il a même pas d'amis. Voilà. Et donc, il va enquêter dans le plus grand secret, pour éviter quand même, même s'il n'a pas d'amis, c'est quand même une enquête dangereuse. Et donc, l'enquête n'est pas officielle. Donc, il ne fait même pas partie de la police, même s'il est policier, il ne peut pas demander l'aide de la police parisienne. Et donc, pour l'aider pour tout ce qui sera administratif, relations indirectes avec la police, on lui adjoint une des assistantes du préfet Lépine, qui est donc Albertine, qui est l'équivalent d'une suffragette pour l'époque, très en pointe évidemment, qui veut démontrer qu'une femme peut faire ce qu'un homme fait, et qui en plus a un peu l'esprit scientifique de la bande, et un jeune flic prometteur, mais très jeune, hein, qui doit encore faire ses preuves, qui s'appelle Thomas, donc, et qui lui va permettre de, quand il y aura besoin d'aller chercher une fiche sur un suspect dans un commissariat, un truc comme ça, comme il est déjà flic et que personne ne fait attention à lui, permet de faire l'interface comme ça. Et donc ça, c'est le trio initial. Et rapidement, vient se greffer un peu de force, un journaliste un peu mondain, un peu dandy, un peu réactionnaire, un peu con au début, il faut bien le dire. Enfin, con dans le sens un peu moraliste, quoi.
C'est celui qu'on voit au tout début qui aborde donc, la
voilà,
série.
Il va entrer de force. Et à la fois, il est très doué en tant que journaliste. Donc, il va un peu entrer de force dans la bande. Et donc, tous les quatre vont mener une enquête comme ça sur ce criminel très étrange, en espérant à tout prix ne pas être repéré. Voilà. Parce que s'il est repéré, on se doute bien que ce tueur mystérieux va tout faire pour les arrêter par la violence.
Donc je vous confirme, hein, donc, ce petit roman qui fait quand même 600 pages, donc c'est quand même moins que Dominio Mundi. Hein.
C'est une nouvelle par rapport à Dominio Mundi.
Voilà, une petite novella. Donc, donc là, on est vraiment sur du policier pur et dur, vraiment bien renseigné. Enfin, en tout cas, bon, pour le moment, je me régale. Vivement la fin, comme on dit, pas trop vite quand même. au niveau de l'évolution de ton style, comment t'as pu toi, t'auto-juger là-dessus, entre le passage entre Dominium et puis l'effet Domino?
Moi, j'ai le sentiment de... Enfin, j'essaye pas d'avoir vraiment un style reconnaissable. J'essaie d'adapter mon style aux besoins de l'histoire.
D'accord.
Et Dominium Mundi, quand on lit, si on est un peu familier de la littérature, on peut remarquer par moments que c'est... Notamment dans les dialogues, ça peut paraître un peu naïf, un peu chevaleresque, un peu grandiloquent. C'est fait exprès. C'est parce que Dominium Mundi, c'est une transposition très très libre, hein, d'un poème épique de la Renaissance qui s'appelle La Jérusalem délivrée, et qui racontait d'une manière très très romancée, hein, la première croisade. Et qui racontait la première croisade, si tu veux, comme Homère avait raconté la guerre de Troie, donc d'une manière complètement flamboyante, mais alors pas du tout précise historiquement. Et donc j'ai essayé de m'adapter à ça, Il y a même des citations, plusieurs fois des citations directes du livre à l'intérieur de Dominium Mundi. Sur l'effet domino, changement complet de style, puisqu'on est en 1907 à Paris, dans le milieu des flics et des truands, donc c'est plus du tout le même langage. Donc j'ai relu beaucoup de livres de l'époque pour me mettre la musique de la langue dans l'oreille, et j'ai essayé d'adopter, alors mon style ne change pas radicalement, hein, mais j'ai essayé quand même de me mettre dans cet état d'esprit pour l'écrire. Dans le suivant, qui était un T'épuis, donc on va en parler après, qui est un roman contemporain, c'est encore un autre style, un style beaucoup plus direct, plus, comme c'est un roman d'action beaucoup plus incisif. Et pour le nouveau, Ars Obscura, qui est une uchronie napoléonienne, donc qui se passe en 1815. Bon, ben là, c'est... À chaque fois, l'idée, c'est qu'on ait l'impression de lire un livre qui a été écrit à cette époque-là. Et donc, pour, avant de commencer la rédaction d'Ars Obscura, ben, je me suis renvoyé la plupart des bouquins très connus de cette époque, par exemple Les Misérables, Le Comte de Monte Cristo, ce genre de livre, juste pour avoir la musique de la langue. Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'écrire comme Zola, Zola, n'importe quoi, comme Hugo, excuse-moi, ou comme Dumas, mais quand on lit ces livres-là en même temps qu'on est en train d'écrire sa propre histoire, bah, il en reste quelque chose quand même dans l'oreille, et donc on s'adapte, notamment dans le phrasé des dialogues, on finit quand même par s'adapter à ça, quoi. Donc voilà pour ta question sur le style de l'effet domino, c'est j'essaie de m'adapter au sujet et à l'époque.
Alors, bah, tiens, puisque tu parles de musique, sur celui-là, la musique qui m'est revenue régulièrement, c'est Les Brigades du Tigre, puisque l'action du bouquin se passe juste avant la création des fameuses Brigades du Tigre. Donc, j'avoue que j'avais le tac-tac-tac, j'avais souvent en tête, clairement.
Oui, alors, pour moi, c'est pas du tout le cas, mais c'est normal que tu l'aies ressenti comme ça.
Ah,
parce
oui,
qu'en
oui.
fait, moi, quand je pitchais le bouquin à l'époque où je l'écrivais, je disais, pour rigoler, hein, c'est Le Silence des Agneaux à Paris en 1907. Et donc, moi, je le vois plus comme un thriller terrifiant façon Seven ou façon Silence des Agneaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes qui, tout en n'étant pas fantastiques, adoptent le registre littéraire du fantastique. Et la description des meurtres, la grande scène finale, où, je ne vais pas trop en dire, où il a un petit problème de lucidité, le héros. Et donc, il voit toutes les choses, tout son environnement de manière un peu étrange. Donc, il y a quand même une tendance légère au fantastique, sans jamais y sombrer complètement. Même le personnage un peu mystérieux, on va pas trop en dire, mais qui s'appelle Double Six, qui est un évadé du bagne, qui a fait, selon la légende qui l'entoure, qui a fait un pacte avec le diable, avec un rituel vaudou, et qui donc aurait plusieurs vies, je m'amuse à entretenir un peu le doute là-dessus, tu vois. Je rentre jamais dans le vrai fantastique, mais je dément jamais complètement non plus... la mythologie qui est autour de lui, parce que c'est ça qui fait tout le charme de la chose, quoi.
Ouais,
et donc évidemment, je comprends très bien qu'on voit un livre de cette époque-là par le prisme des Brigades du Tigre, et moi j'adore ça, les Brigades du Tigre,
bah, oui. Pardon.
Mais c'est vrai que moi, si je devais adopter une musique pour ce livre, ce serait plutôt celle du Silence des Agneaux, qui est bien ténébreuse.
Et c'est vrai qu'en plus, de toute façon, des fin 19e, début 20e, on en a parlé sur d'autres émissions, on a aussi ce passage entre l'ère vraiment industrielle complète, avec un moment où il y a encore le mysticisme, beaucoup de spiritualisme, dans les campagnes, il y a encore les légendes, il y a encore le spiritualisme avec les tables, etc., qui est encore très présent dans la société. Ouais, spiritisme, pardon.
Oui, donc, j'en parle, mais t'en es peut-être pas encore arrivé là, mais
il y a encore
un chapitre sur... oui, je fais intervenir Aleister Crowley. Pour ceux qui connaissent, donc Crowley, qui était un médium très célèbre en Angleterre, fin 19e, début 20e, et qui était vraiment assez un drôle de personnage. Hein. Et donc, qui était un adepte du spiritisme. Et ça, j'en parle beaucoup. J'aime beaucoup ça.
Bah, du coup, on a parlé des deux des premiers, hein, Dominion Mundi, qui était de la SF, comme on en a parlé.
L'effet domino.
Effet domino, pardon. Oula, c'est
du coup. Mais c'est même moi, je m'en mêle des fois.
Domino, ah oui, voilà, domino. Pardon, c'est ma faute. Mais du coup, T'épuis, tu en as parlé, voilà, qui est dans un registre totalement différent. Hein, voilà. Ben, merci Fred de le montrer. Bon, il est quelque part, mais c'est un peu le bazar chez moi.
On mettra les inserts, c'est mieux.
Voilà. Celui-là, tu pourrais nous en parler. Celui-là, voilà, il est sorti. On en avait parlé. Il est sorti
en plein COVID.
Donc, en plein COVID. Voilà. Donc.
Oui.
Déjà, avec un titre aussi qui interpelle un petit peu, parce que...
Oui, on ne sait même pas comment le prononcer.
Voilà, oui, c'est ça, je t'avoue que...
J'ai vu sur Internet pour la prononciation.
Ouais. Ah ouais, moi je sais même pas si je le prononce comme il faut. Moi je le prononce phonétiquement Tépuis. Alors la genèse de cette histoire, c'est très simple. J'ai commencé à écrire Ars Obscura vers 2015, un truc comme ça.
D'accord.
Et j'ai tout de suite vu que ça allait être un truc énorme, une grosse série sur le long terme. Et donc une fois que j'ai terminé complètement le premier jet, le squelette complet de l'histoire, c'était quand même déjà rien que ça, c'était un gros truc, un gros travail. Et que ça allait me demander beaucoup de recherches, de documentation sur l'époque. Parce qu'il faut savoir que j'ai écrit sur quatre romans, il y en a trois qui ont un arrière-plan historique. Et donc on pourrait croire que je suis un passionné d'histoire, et en fait pas du tout. L'histoire, ça m'intéresse, mais j'y connais rien. J'ai jamais vraiment étudié ça. Et donc à chaque fois que je prends un background historique, c'est parce que ça parle à mon imaginaire, mais je connais pas les détails. Donc je suis obligé de me documenter beaucoup, de lire beaucoup sur le sujet. Et des fois, ça prend du temps. Et c'est fatigant, c'est fastidieux, c'est pas la partie que je préfère. Et donc j'avais écrit Dominium Mundi, il a fallu que je me renseigne beaucoup sur l'époque des croisades, de la première. L'effet domino, il a fallu que je me renseigne énormément sur le début du XXe siècle à Paris, ce qu'était cette capitale complètement dingue, c'était la capitale du monde à l'époque. Hein. Donc c'était vraiment, c'est un personnage à part entière pour moi, Paris, dans 1907, dans l'effet domino, qu'est-ce que je raconte? Donc ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Ars Obscura, je savais que ça allait m'en demander beaucoup. Et ben, avant de vraiment commencer la rédaction, j'ai eu envie de faire une pause. J'avais besoin d'une respiration. J'avais besoin d'être juste dans l'écriture. J'avais cette idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, d'une aventure sur un Tépui. Et je me suis dit que j'allais l'écrire juste avant l'écriture d'Ars Obscura pour me faire ma pause à moi, juste pour le plaisir. Parce que là, comme c'est contemporain, pas besoin de rechercher de la doc. Bon, évidemment, ça a complètement foiré, puisqu'il a fallu que je recherche de la doc sur plein de trucs que je connais pas, comme le pilotage des avions,
Oui.
la recherche biologique, enfin bon, il y a plein de thèmes, la spéléologie, moi j'ai jamais fait de spéléo, il y a toute une scène de spéléo, et comme j'aime pas raconter des bêtises, il a fallu que je me documente vachement. Au
Ouais, pour ça
final,
dans
il a
ta
fallu que je
semaine
me
d'ailleurs.
documente. Et donc, pour résumer le bouquin rapidement, moi j'avais envie de raconter une histoire en mettant le lecteur dans la position, pardon, le personnage dans la position du lecteur, c'est-à-dire commencer un peu comme on commence un jeu vidéo. Quand tu commences dans un jeu vidéo, ton personnage ne sait rien, en général. Tu apprends en même temps que lui. Dans un roman, c'est pas le cas. Il a déjà son vécu, il faut que tu expliques qui il est, soit ses souvenirs, son ressenti, etc., sa personnalité. Et ben, moi, j'avais envie de raconter une histoire du point de vue d'un personnage complètement amnésique. L'histoire commence, une jeune femme se réveille, elle ne sait pas qui elle est, pourquoi elle est là, ni même où elle est. Elle ne sait rien, elle a tout oublié. Et donc, ce qu'elle va découvrir, ben le lecteur va le découvrir en même temps qu'elle. Ils sont sur un pied d'égalité. Voilà, je trouvais ça marrant de partir sur ce système-là. Évidemment, au cours du roman, elle finit par retrouver petit à petit la mémoire, c'est assez long quand même. Mais du coup, il y a quand même un long passage de survival pur et dur. Autre sujet sur lequel il a fallu que je me documente, le survival. Je ne sais pas comment on survit dans la forêt amazonienne. Et donc après, l'histoire, c'est moi, je dis souvent que c'est un peu comme un film d'action des années 90. C'est que c'est vraiment, on
Ouais.
est dans l'action pure et dure.
Il y a
Voilà,
un rythme à la
ça s'arrête
McTiernan, hein,
jamais.
clairement.
Ah ben, totalement, c'est vraiment, c'est assumé. Le but, c'était de faire un truc pour le plaisir, de vraiment le page-turner, ce qu'on appelle le page-turner, c'est pour le plaisir d'être tout le temps dans pas forcément l'action physique, mais la découverte, les rebondissements, voilà. Donc c'est un petit livre pour moi, puisqu'il fait 700 000 signes de mémoire,
Ouais, c'est
là
420
où
pages. Ça va.
là où l'effet domino, par exemple, faisait déjà 1 100 000, et Dominium Mundi, 2,7 millions de signes. Tu vois, 700 000 signes, pour moi, c'est un petit livre.
Oui.
Et donc le but, c'était vraiment ça, quoi, c'était de s'amuser, quoi. Voilà. Et donc, après, résumer ce livre, c'est quasiment impossible parce que tu es obligé
Ah,
de
ça
spoiler tout
spoil.
de suite.
Ouais, clairement.
Tu es
C'est
obligé de spoiler.
420 pages, je dirais que c'est à peu près à la moitié que l'héroïne commence vraiment à, on commence vraiment à avoir tous ces souvenirs qui se mettent en boîte parce qu'il y a une intrigue en parallèle avec. Donc le privé qui enquête sur une disparition d'avion.
Oui, pour
J'en
faire
dirai
l'idée
pas beaucoup
rapidement.
plus. Ouais, voilà. J'en dirai pas beaucoup plus. Et puis on comprend petit à petit tous les enjeux de sa présence sur ce. Alors, la prononciation que j'avais entendue, c'était Tepui. Tout simplement.
Oui, ça, je ne suis
Voilà.
pas compétent.
Ouais,
Donc, pour
non,
expliquer aux gens ce que c'est qu'un tepui, c'est une
mais.
formation
Ouais,
géologique
mais. Ouais.
au Venezuela, à la partie de la forêt amazonienne qui est au Venezuela, et c'est unique sur Terre. Enfin, il y en a d'autres ailleurs, mais pas dans ces proportions-là. Donc, c'est des hauts plateaux, c'est des formations calcaires. On ignore un peu comment ça s'est formé. C'est ce qu'on appelle des hauts plateaux tabulaires. Donc, en gros, c'est des tables. Voilà. Donc, c'est vraiment un plateau. C'est plat à la surface. Et sur les côtés, c'est des falaises parfaitement verticales qui font, pour les plus hautes d'entre elles, 1 km de haut. Voilà, il faut se représenter ce que c'est, une falaise à pic d'un kilomètre de haut. Et ça entoure complètement le plateau. Donc, c'est des lieux complètement inaccessibles. Et donc, on considère en général que les biotopes qui sont au sommet des tepuis sont totalement différents de ceux qui sont dans la forêt amazonienne
Ah,
qui les entoure,
complètement.
parce qu'ils sont totalement séparés. En gros, il n'y a
Oh,
que les oiseaux qui peuvent faire des allers-retours. Ce n'est pas les mêmes espèces. Il y a des espèces endémiques qui sont propres au sommet des tepuis. Et certains sont de taille normale, et certains sont gigantesques. Hein. Il y en a qui font 50 km de long. Donc c'est vraiment des mondes à part entière. Et donc le plus connu d'entre eux, le Roraima, c'est là-dessus qu'avait situé Conan Doyle son
Le monde
livre
perdu.
Le Monde
Le
perdu,
monde
le
perdu, oui, tout à
célèbre
fait.
Monde perdu, donc les dinosaures qui ont survécu jusqu'à nos jours, parce que justement c'est isolé. Et donc c'était pas invraisemblable, c'était plausible, disons quoi, que des dinosaures aient survécu isolés du monde sur ces hauts plateaux gigantesques. Et donc moi ça m'amusait d'imaginer que quelqu'un sans souvenir se réveille au beau milieu d'un tepui sans savoir ce qu'il fait là et sans pouvoir en partir. Parce que tu ne redescends pas d'un tepui si tu n'as pas l'équipement nécessaire.
Ah oui, c'est mieux avec un petit hélico, hein, par exemple. Hein. On dit ça, on dit rien.
Voilà.
Donc je vous mettrai en insert, hein, l'image d'un tepui pour que vous compreniez vraiment de quoi on parle. Alors moi je dirais que pour résumer le bouquin, parce que je vous ai dit, celui-là, c'était un des premiers bouquins que j'ai lu après Covid. Donc, et ça se lit super vite. C'est un rythme vraiment
Oui, ça
bah,
fait trop.
effréné. Ouais, c'est vraiment effréné. Comme il faut imaginer ça comme un croisement. Alors moi, c'est comme ça que je me le suis auto-défini quand j'ai eu fini la lecture. Espèce de croisement entre Uncharted et du X-Files. Voilà.
C'est pas mal trouvé. C'est pas mal trouvé. C'est l'auteur, pour ceux qui aiment les thrillers d'aventure, l'auteur le plus proche, c'est pas que je me compare à lui, mais c'est le même registre, c'est Michael Crichton. Voilà.
Oui.
Le fameux Michael Crichton, c'est ce genre de livre, il aurait pu l'écrire. On est vraiment dans ce style de littérature.
Donc efficace. Enfin, si vous cherchez quelque chose, moi je sais que j'en
Et juste,
reparlerai dans.
pour que
Oui.
ce soit clair pour les gens, parce que parfois il y a un peu de confusion, c'est un thriller, mais qui a une composante assez forte de science-fiction, quand même, il faut le préciser.
Oui. Il y a un pitch, on va dire, à un moment donné.
Ah, ton prochain roman qui arrive là, donc tu nous as teasé au début, Ars Obscura, là aussi, est-ce qu'on pourrait avoir un petit pitch?
Alors, ouais, je vais essayer de pas trop foirer. Ça se passe en. Donc, c'est une uchronie napoléonienne. Avant de le résumer, tiens, je vais te le pitcher. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est Napoléon conquiert le monde avec l'aide d'un sorcier. Donc, de la vraie magie, de la vraie sorcellerie.
Tout va bien.
Assumé, premier degré. Pas un truc subtil, poétique. Non, non, de la magie. Bon. Donc, ça se passe en 1815. Napoléon a conquis l'Europe comme il l'a fait en réalité, mais il s'est forgé un empire encore plus vaste que celui qu'on a connu grâce au pouvoir d'un sorcier qui s'appelle Hellegast. Nul ne sait rien d'Hellegast. On ne sait pas qui il est vraiment, on ne sait pas d'où il vient. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le seul qui soit capable de pratiquer l'art obscur, Ars Obscura, une forme de magie noire aussi puissante que terrifiante. Donc, la France de cette époque-là est une énorme puissance militaire et économique, en apparence un géant, mais elle est minée de l'intérieur par des troubles surnaturels qui terrifient la population, qui sèment le chaos, qu'on appelle des résurgences, ou le commun des mortels appelle ça des bulles noires. Résurgence, c'est le terme scientifique. Donc, c'est des manifestations surnaturelles extrêmement violentes, un peu comme des hémisphères d'ombre qui font plusieurs dizaines de mètres de diamètre, qui se matérialisent comme ça spontanément et qui engloutissent les gens là où ils se trouvent. Et donc, déjà, ça fait des victimes. Et en plus, des monstres terrifiants en surgissent. Enfin, il y a des hordes de créatures. Noir et blasphématoire, dirait Lovecraft, qui en sortent et qui sèment la
Indicible.
terreur dans les campagnes. Voilà, indicible. Et donc ça, c'est pour l'arrière-plan. C'est une histoire, j'aime pas trop cette expression, mais c'est un récit choral. C'est-à-dire que c'est une histoire qui met en place beaucoup, beaucoup de personnages qu'on va suivre les uns après les autres. Un peu le modèle que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Game of Thrones. Voilà. Donc c'est ce style de récit où on découvre l'histoire à travers le regard de plein de personnages qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres et parfois sont amenés à se croiser. Et, bon, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce genre de récit. Donc je ne vais pas tous les évoquer, ce serait interminable. Je vais juste... je peux juste vous présenter les deux principaux, en tout cas au début. On a d'un côté Ludwig. Ludwig, c'est un mercenaire qui a, alors c'est pas très original, qui a tout oublié de son passé. Alors pas autant que l'héroïne de Tépuis, parce qu'elle, elle se souvient absolument de rien. Ouais, lui, ouais. Il a oublié son enfance. Et, mais par contre, au moment où l'histoire commence, ça fait une vingtaine d'années qu'il vit sa vie et qu'il a ses souvenirs normaux. Mais il a oublié son passé lointain. Voilà, il ne sait plus du tout. C'est vraiment, il ne connaît pas du tout son passé. Et donc, c'est un mercenaire un peu... il est difficile à décrire. Un peu mutique. Voilà, il est un peu isolé, un peu solitaire. Voilà. Et il s'est spécialisé dans la traque des résurgions. Donc, ces monstres qui sortent, qui sont rejetés par les résurgences, par les bulles noires. Y a des gens qui sont spécialisés dans leur traque, et lui, il en fait partie. Mais pas que, il a aussi d'autres occupations qu'on découvre petit à petit. Et au fil du récit, il va être amené à croiser la route d'une jeune femme qui s'appelle Etlinde. Alors Etlinde, c'est un prénom typique de l'époque, hein, de l'époque post-révolutionnaire. On a beaucoup, beaucoup de nouveaux prénoms qui ont émergé, et qui parfois sont très beaux d'ailleurs. Et donc il croise la route d'une jeune femme qui s'appelle Etlinde, qui est une sorte de naturaliste, ce qu'on appelait les naturalistes à l'époque, c'est les scientifiques un peu touche-à-tout, qui connaissent beaucoup de sujets, qui savent un peu tout sur tout, bref.
De façon la Pérouse, ouais.
Exactement, et donc c'est une étrange naturaliste qui est, accessoirement, qui vit un peu comme un brigand, puisqu'elle est traquée par toutes les polices de l'Empire. Donc elle vit en marge de la société, on ne sait pas pourquoi, elle est traquée comme ça, on l'apprend évidemment petit à petit, mais au début on ne le sait pas. Et à un moment donné, leurs routes vont se croiser, vont être amenées à coopérer par la force des choses. Et rapidement, Etlinde va se rendre compte, va constater l'impossible. Ludwig, lui aussi, sait faire appel à l'art obscur. Voilà. Alors qu'en théorie, seul le sorcier en est capable. On n'a jamais vu un autre être humain capable de le faire. Et d'ailleurs, c'est interdit. Il y a une loi qui dit nul autre qu'Elegaste n'est autorisé à pratiquer l'art obscur, sous peine de mort, soyons clairs. Mais de toute façon, personne d'autre ne sait le faire. Et rapidement, elle se rend compte que lui, bizarrement, il est capable de le faire. Alors, pas de la même manière, pas avec la même puissance, mais ça la stupéfie, se rend compte de ça. Et... donc rapidement, on comprend qu'ils n'ont pas des intérêts communs, mais une façon de vivre commune. Ils poursuivent des buts qui sont assez proches, et donc ils vont s'associer et unir leurs efforts d'une certaine manière pour essayer de comprendre qui est Elegast réellement, d'où il vient, qu'est-ce que l'art obscur exactement. Donc ça, c'est juste les deux personnages qu'on voit le plus au début, mais il y a toute une autre galerie d'autres personnages que je ne peux pas vous résumer, ce serait trop long. Je peux vous faire une sorte d'inventaire à la Prévert. Il y a beaucoup d'espions à l'époque. Cette époque, c'est une époque qui est gangrénée par l'espionnage dans tous les sens. Donc beaucoup d'espions à la solde de l'étranger. On a une antique confrérie de mages tout à fait mystérieuse elle aussi, qui a l'air de remonter à plus d'un millénaire. On a d'étranges entités ésotériques, pas que des monstres, hein. Il y a aussi des créatures un peu étranges sur lesquelles on ne sait rien au début. On a évidemment une conspiration, sinon c'est pas drôle, donc des officiers haut placés dans l'Empire qui préparent une conspiration contre l'Empereur, mais on ne sait pas exactement pourquoi au début. On voit beaucoup de choses du côté russe aussi, puisqu'il y a, contre Napoléon, il y a eu plusieurs coalitions de l'étranger. Tous les pays s'assemblaient pour essayer de lutter contre la puissance de Napoléon. Alors là, comme elle est encore plus grande, ils essaient de lutter encore plus désespérément. Et donc on voit beaucoup de choses du côté des Russes. Alors j'ai commencé à écrire ça avant que Poutine s'énerve et essaye de reconquérir une partie de l'Europe, mais c'est tristement d'actualité malheureusement.
Ouais.
Et notamment chez ces Russes, on suit une espèce de secte étrange, adorateur d'un dieu sanguinaire. Voilà, j'en dis pas plus, mais donc c'est très, voilà, c'est très touffu. Il se passe beaucoup de choses. Et évidemment, tous ces personnages sont amenés à se croiser, à interagir les uns avec les autres. Certains, comme je dis souvent, certains pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres, et d'autres, au contraire, pour l'y plonger. Voilà.
Comme une grosse tapisserie, quoi, en fait, avec plusieurs fils qui se croisent au fur et à mesure, quoi.
Oui, bah, Game of Thrones, c'est la meilleure comparaison. Ça n'a aucun rapport avec Game of Thrones. C'est pas du tout la même histoire, ni la même façon
de faire. Non, mais c'est une façon de raconter les histoires. Hein.
Voilà, c'est ce type de narration où tu as une galerie de personnages. Tu passes de l'un à l'autre en fonction de l'actualité, si j'ose dire, de chacun, des uns et des autres. C'est vraiment ce style de récit-là. Et donc, c'est prévu en 4 tomes.
Oui.
Le premier s'appelle Sorcier d'Empire, qui est le poste créé spécialement pour Elegast. Il y a un sorcier d'Empire, c'est Elegast. Parce qu'à l'époque, il y avait des généraux d'Empire, hein, donc, ou des maréchaux d'Empire. Donc, il y a un sorcier d'Empire. Et l'idée, c'est de ne pas faire attendre les gens trop longtemps entre chaque tome. Donc, en principe, ils vont sortir à 6 mois d'intervalle. Donc, d'accord. Le premier sort en mars, là, 15 mars. Le deuxième sortira, si tout va bien, en septembre prochain. Le troisième, à nouveau en mars 2024, et ainsi de suite.
Donc, on rappelle que ça sort chez De Noël Lune d'Encre, cette fois-ci.
Exactement.
Bah écoute, en tout cas, ça donne bien envie. Enfin, surtout, je vais pas dire surtout parce que ce serait un peu très prétentieux même. Mais c'est vrai que quand on est héroliste, bah, ça donne très envie parce qu'on voit aussi
un pitch pareil, c'est sûr. Nous, ça nous fait frétiller d'avance.
Voilà, clairement. On voit tout de suite comment on va adapter ça. Mais déjà, t'es fouillé. De toute façon, j'en reparlerai de toute façon sur la chaîne dans une œuvre, un jeu, hein, pour voir comment on peut décortiquer ce petit machin. Je veux dire, ça va à 420 pages en termes de jeu de rôle. Donc, ouais, Ars Obscura, ça donne très, très envie. Je pense qu'on a quand même pas mal balayé un petit peu toutes tes activités et tes positions. Donc, avant qu'on clôture cet entretien, donc, on te remercie à nouveau. Savoir en fait, tout simplement, quels sont les futurs projets, parce qu'on se doute que Ars Obscura, c'est quelque chose que tu as déjà finalisé dans l'écriture ou il y a encore des choses à faire dessus.
Alors j'ai finalisé les deux premiers tomes. Le troisième, je suis en train de le terminer. Il reste encore quelques mois d'écriture, mais ça devrait se terminer rapidement. Et le temps que les trois premiers sortent, j'aurai normalement terminé, si tout se passe bien, le quatrième. Ça a été conçu, j'ai conçu le timing de cette manière-là, parce que j'avais pas envie, comme c'est des romans qui peuvent paraître compliqués parce qu'il y a beaucoup de personnages, si t'attends un ou deux ans entre chaque tome, tu as tout oublié, quoi. Donc là, avec six mois, normalement, ça reste encore assez frais dans la mémoire.
C'est pas comme les ventes d'hiver, quoi.
C'est quoi les ventes d'hiver? Je connais pas.
The Winds of Winter, c'est le prochain tome de Song of Ice and Fire de
Pardon.
Oui. À jour peut-être. Voilà.
Oui.
Voilà. Non, j'ai essayé de prendre un peu moins de temps quand même. Et donc là, pendant moi, il me faut à peu près un an et demi, hein, pour écrire un tome d'un million de signes. Donc là, pour le prochain bouquin, c'est le tome 4 de Ars Obscura. Le prochain illustré, je l'ai déjà annoncé, c'est le Cauchemar d'Innsmouth.
Oui.
Voilà, j'ai envie de bien le soigner, celui-là, parce que c'est quand même une nouvelle importante. Je vais pas le sortir cette année, je vais prendre mon temps pour le faire. Donc, il sortira normalement en 2024, vraisemblablement en octobre. C'est toujours en octobre que je sors les illustrés. Donc, ça, c'est ce qui va m'occuper jusque fin 2024, hein, que ce soit en écriture ou en illustration. Pour après, c'est encore un peu lointain pour en parler. Vraisemblablement, je vais tenter, ça peut changer d'ici là, mais je pense que je vais tenter de faire un livre illustré sur le même modèle que ce que je fais pour Lovecraft, mais sur une histoire que j'écrirai cette fois.
D'accord.
Je vais essayer de mélanger les deux, en gros, mes deux activités, d'écrivain et d'illustrateur. Bah, je vais essayer de mélanger ça. J'ai déjà un embryon d'histoire. Je vais pas en parler là, c'est trop tôt, mais honnêtement, c'est dans tellement longtemps que si ça se trouve dans un an et demi, je serais passé à autre chose. Mais c'est ce que j'ai en tête pour l'instant, en tout cas.
Puis je crois que en plus pour avoir pour suivre hein, ton actualité sur les réseaux sociaux, je crois qu'en plus tu exposes aussi dans les galeries ton travail, si je dis pas de bêtises.
Non, pas vraiment. Il y a une galerie à Paris qui s'appelle la French Paper Gallery,
oui.
Qui est une galerie qui expose des affiches et qui en vend, surtout sur Internet.
On mettra le lien dans la description.
Voilà, c'est une galerie pop culture, en gros, hein, qui fait le rock, le cinéma, la musique. Et donc, qui vend tous les tirages, toutes les affiches tirées de mes Lovecraft, et qui parfois en fait des expos. C'est pas un lieu d'expo à proprement parler sur mes œuvres. Ça arrive que ce soit le cas. Et d'ailleurs, là, c'est là-bas qu'on va faire le lancement du livre, qui en gros, on va faire une journée de rencontres et de dédicaces à la French Paper Gallery à Paris, près de République. Et ce sera le samedi 11 mars, si je ne me trompe pas sur la date. Au moment où on enregistre, c'est dans une semaine.
Voilà, donc le moment où ce sera diffusé, ce sera déjà passé. Non, mais voilà. Si tout va bien,
il y aura d'autres dédicaces après. Je sais pas quand tu vas diffuser, mais je vais faire pas mal de dédicaces dans les semaines qui viennent. Donc, toutes ces dates sont trouvables sur mes réseaux sociaux très facilement.
Que j'allais dire, on mettra de toute façon les liens vers tous tes sites et tes réseaux sociaux dans la description. J'en profite aussi, puisqu'on n'est pas loin de la fin de l'entretien, un petit coucou spécifique et spécial aux amis de l'association Miskatonique qui sont du côté de Verdun. Parce que c'est des passionnés de Lovecraft, qui sont à fond sur le travail. Et je sais qu'ils ont déjà parlé régulièrement de tes œuvres, hein, de Cthulhu
illustré. Oui, je crois que je les suis sur Twitter.
Bah oui. Donc voilà, c'est une petite dédicace spéciale, gratuite, et puis ça fait du bien aussi, de temps en temps. Donc bah, écoute, on se dirige tout doucement vers la fin. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que le prochain Ars Obscura cartonne comme il se doit. Et surtout, moi ce que je souhaite aussi, c'est que ce roman-là trouve son vrai succès, parce que on en a parlé très rapidement, mais il est sorti en plein Covid, donc tous les bouquins qui sont sortis à cette époque-là, parce que je sais que ça a été compliqué hein, pour leur vie. Leur vie en tant qu'objet.
Au final, il a bien marché. Mais il aurait certainement pu trouver un public plus large si les librairies avaient été ouvertes quand il est sorti.
À ce moment-là, oui. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vrai que vous avez la version poche qui se trouve beaucoup plus. Qui se trouve facilement, en fait. Voilà, tout simplement.
N'importe où.
Donc, du coup, Antoine, je vais te laisser le petit mot qui nous effraie tant. Hein,
pour toi. Merci, c'est gentil. Ouais, du coup, en tout cas, oui, ce qu'on appelle le mot de la fin. Et oui, en tout cas, François, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir, vraiment. Sacrée carrière, impressionnant, franchement.
Waouh. Je t'en prie. Toujours un plaisir de répondre aux questions à des gens passionnés.
Ah, merci. En tout cas, merci Fred aussi d'avoir été là. Hein.
Écoute, oui, c'est un plaisir. Hein.
Voilà. Et puis, voilà. Donc, cette vidéo sera diffusée donc très prochainement, ne vous inquiétez pas. Donc, en description, on va mettre tous les liens dont on a parlé dans cet entretien. On va rajouter plein de petites choses, ne vous inquiétez pas. Hein, vous aurez accès à tous les liens vers les différents...
Les éditeurs,
tout
les pages, etc. Tout ce qu'il faut.
Voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le poster en commentaire. On y répondra. On transférera également.
S'il y a besoin.
S'il y a besoin, voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, on vous dit à une prochaine. Allez, ciao tout le monde.
Salut.
Salut.